Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Attends, t'as changé ton nom? Tu t'appelles McLovin? Ouais, McLovin. C'est quoi ce nom de débile mental, Fogel? Tu veux devenir le roi du R&B irlandais?
Non, il te laisse prendre le nom que tu veux quand tu vas les voir.
Et toi, t'as choisi McLovin?
En fait, j'hésitais entre ça et Babacar.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Aurélien et Mehdi qui fait son retour. Comment allez-vous?
Ça va, et toi?
À côté de vous se tient notre invité du jour, Driver. Comment vas-tu?
Très bien, et toi et toute l'équipe, comment allez-vous?
Bah, très bien, cool. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Oula, je suis driver, rappeur, animateur, podcasteur, comédien, producteur, éditeur, je fais plein de choses.
Joli.
Et j'ai dû en oublier.
Et t'animes un podcast très cool.
Ouais, qui s'appelle Featuring et dont je suis très fier.
Rempli d'anecdotes.
Ouais.
Et on adore les anecdotes dans ce podcast.
C'est ça, moi j'adore ça.
Donc ça tombe bien.
On nous en donne comme il faut.
Alors, je dois t'avouer que je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que tu fais partie de mon adolescence. Des premiers vinyles que j'ai écouté dans ma vie, c'est ton album, Le Grand Chelem, sorti en 1998. Mmh. Album qui appartenait à mon cousin, chez qui j'allais souvent dormir le week-end, et j'ai des vrais souvenirs associés à ta musique. Ce cousin, il habitait dans une cité au Lila, et quand j'allais chez lui, je jouais à ISS sur Nintendo 64, je regardais Beverly Hills sur la Une, je lisais un magazine Joypad, j'enchaînais sur un Planet Foot, et au milieu de tout ça, j'en profitais pour écouter ton fameux vinyle. Mon cousin habitait au dernier étage d'un immeuble et j'ai souvent écouté tes sons, accoudé à la fenêtre, en regardant la nuit tomber sur le 93, des vrais bons souvenirs d'adolescence, en particulier avec ton titre « Changer de vie » que j'écoutais en boucle.
Je suis né, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et Sarcelles est la ville où j'ai fait les miennes. J'y ai passé ma minorité tranquille. Je m'y suis bien amusé, abusé. Parfois, mais toujours été bien surveillé.
Donc pour ça, je suis très content de te recevoir aujourd'hui, 23 ans plus tard. Voilà.
Écoute, ça me fait plaisir. En plus, t'as dit en vinyle, c'est incroyable.
En vinyle, ouais.
J'ai beaucoup d'amour pour ceux qui ont acheté cet album en vinyle. Mais donc ton cousin, même si je le connais pas, je l'adore.
Mais je crois que c'est un des premiers vinyles que j'ai écouté dans ma vie.
Voilà. Ok.
Donc c'est le tien.
Cool, ça fait plaisir.
On s'est envoyé des messages sur Insta il y a 2 semaines. Je t'ai demandé de me proposer 5 films que t'adores, ce que je fais souvent avec les invités qu'on reçoit ici. Mm-hmm. Et parmi ces 5 films, j'en ai choisi un qui m'a chauffé particulièrement et sur lequel on va se pencher aujourd'hui, Superbad. Film sorti en 2007, réalisé par Greg Mottola, écrit par Evan Goldberg et Seth Rogen, qui en est également le producteur avec Judd Apatow, entre autres. Superbad raconte l'histoire de 3 lycéens incarnés par Jonah Hill, Michael Cera et Christopher Mintz-Plasse qui, avant d'entrer à l'université, vont tout faire le temps d'une nuit pour mettre fin à leur virginité. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, Superbad est devenu une comédie culte ayant explosé à sa sortie et dès sa première semaine tous les blockbusters qui se tenaient à ses côtés à l'affiche. Ce film, qui est l'un des préférés de Sean Penn, figurez-vous, a également permis à Jonah Hill et Michael Cera de lancer concrètement leur carrière. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Driver.
Il y en a plein, mais si je dois en garder qu'un, c'est quand Fogel, qui est un des personnages du film, arrive avec sa fausse carte d'identité parce qu'il veut acheter de l'alcool et qu'il est mineur. Et sur la carte d'identité, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, il y a juste McLovin.
C'est culte.
Et j'oublierai jamais la réplique de Seth quand il monte sa carte. Donc Fogel arrive heureux, il dit « Ah voilà les gars, c'est bon, j'ai ma carte d'identité », il la montre. Et Seth, il dit « McLovin ? Mais c'est quoi ce nom ? Tu te prends pour le prince du R&B irlandais ?» Et ça m'a tué. Et j'adore ce passage, et à chaque fois que je vois ce passage, je ris.
Est-ce que ça fait partie de tes comédies préférées, Superbad ?
Ouais.
Au niveau du rire.
Ouais. Ça veut dire, il y a ça. Ça se bat avec American Pie et Projet X.
Donc,
j'adore ce genre de film.
Projet X, c'était chaud.
Fan de ça. Ah ouais, non, Projet X, énorme.
Donc un peu le même genre de film où en gros faut aller baiser pour la première fois.
J'adore ça, c'est vraiment de voir ça, de ces adolescents qui c'est un moment important de la vie.
Ouais, mais t'as raison. Hein.
Et de voir, je sais pas, ça me touche chaque fois. Je me dis
surtout qu'en plus moi American Pie c'est un film que j'ai vu quand j'étais puceau. Donc ça t'excite à fond, t'es là, tu dis bon allez faut y aller là. Quand est-ce qu'on y va quoi?
C'est des grands moments.
Ça rend dingue.
Mais dans la vie de tous les jours à l'époque. T'avais connu un peu ce genre d'ambiance, ce style d'ambiance, aller en soirée.
Ça existait en France, ça, les ambiances soirées comme ça?
Enfin, même style, mais.
Il y avait des house parties, comme disent les Américains, des trucs en appartement, mais moi, de là où je viens, c'était beaucoup moins fun. C'est des trucs qui se terminaient souvent en bagarre, donc c'était pas l'endroit où tu te disais, je vais pêcher une meuf, je vais avoir ma première relation sexuelle. Non, c'était pas comme ça, quoi.
Il y avait pas McLovin là-bas.
Ah, pas du tout. Il aurait passé un seul quart d'heure. Donc, non, mais du coup, ça faisait rêver, en fait. Moi, tous ces trucs américains, le bal de fin d'année, ouais. Truc machin, c'est des trucs qui n'existaient pas en
même
France.
Même avoir un casier.
Ouais, tous ces trucs-là. Ma petite sœur a eu ça.
Ah ouais?
Ouais, quand elle était au collège, mais elle a 7 ans de moins que moi. Donc, elle a vécu une autre époque, elle a eu un casier, j'étais jaloux.
Ouais, on voulait tous un casier.
C'est ça.
C'est clair.
Donc, ouais, non, c'était, moi, ça m'a toujours fait rêver, ces trucs de la princesse, la prom queen, tout ça, là. J'ai toujours bien aimé ces trucs.
Ouais, puis en plus, on a un peu grandi avec des séries comme Beverly Hills, Dawson, tout
que,
ça. Donc,
que je regardais beaucoup.
Voilà, et à fond. Et je sais d'ailleurs que t'es un grand fan des Feux de l'amour.
Ah, ça, jusqu'à maintenant.
Ah, tu vois, donc t'as été bercé par ces séries américaines.
Exactement.
Tu
regardes toujours, là?
J'ai regardé ce matin, 11h.
Non, mais j'ai vu ton...
Tous les jours.
Tu sais que j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, parce qu'on avait reçu Sébastien Abdelhamid, et t'avais fait Dans la Légende.
Exactement.
Et on a parlé de ton amour pour les Feux de l'amour. Ouais. Et j'en parlais à Mehdi hier. T'as vu pratiquement tous les épisodes.
Ouais, non, mais j'ai même croisé des acteurs à Los Angeles.
Ah ouais? Et ils sont reconnus dans la rue ou c'est des mégastars là-bas ou?
En fait, j'ai reconnu celle qui joue cricket, pour ceux qui connaissent, qui est une mégastar, mais elle était en voiture, au feu rouge, donc les gens regardaient pas trop, sauf moi, et j'ai crié « Cricket! I love you! »
Est-ce que t'es le fan numéro 1 en France, les Feux de l'amour?
C'est possible. Hein.
C'est possible. Hein.
Franchement, c'est possible.
Il y a toujours le beau gosse, le moustachu, là, je sais plus comment il s'appelle.
Victor Newman.
Ah, Victor Newman.
Il s'y connaît.
Le roi, le patron, c'est lui.
Ah, ouais. Et Amour, Gloire et Beauté à côté, non, c'est pas,
non,
pas de comparaison.
Non, j'ai pas suivi.
Ouais, non.
Non, non.
Très bien. Mehdi, ton premier souvenir de Superbad?
Alors, pour être franc, moi, je connaissais pas du tout ce film. Okay. je l'ai regardé,
c'est tout frais, c'est hier, c'est, son premier souvenir.
Il y a une heure, hein.
Je connaissais pas du tout ce film, et en fait, je me suis dit, je vais le regarder tranquillement chez moi, j'avais ma fille. Et quelle erreur, parce que ma fille. Elle a 6 ans.
Oh, non, non,
je me suis dit, je vais m'installer tranquillement. Je m'avais rien dit sur ce film, je connaissais vaguement. Je lui dis, bon, ça va être un film de. Voilà.
D'auteur.
Bon enfant. Et en fait, dès le début, ça part très fort.
Tout ouais.
Avec des insultes, du sexe.
Et elle entendait ta fille ou?
Bah après, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai regardé un petit peu plus tard.
Okay,
donc
d'accord.
Moi, c'est ce qui m'a marqué, moi. C'est le côté cash, quoi.
Trash.
Exactement.
Oui, parce que quand tu te rappelles de la scène où ça danse avec les règles.
Avec
tout,
les règles, exactement. Ouais,
Sur Big Papa de Notorious Big, quand même.
Ouais, voilà,
en plus, ouais.
C'est pas pour les enfants de 6 ans, en ce moment-là. Ouais, non. Aurélien, ton premier souvenir du film?
Bien, je pense que c'était un peu le même que Driver quand même. McLovin, il m'a marqué forever.
Hein,
parce qu'il faisait tchiki, tchiki, yeah!
C'était ça. Je tiens à dire que j'ai un t-shirt.
Ouais.
Avec sa carte d'identité.
Ah, ouais.
Et son
ah pas mal.
Ça, c'est fort, ça. Mais son chiquillet, je crois que c'est un des premiers mèmes internet que j'ai partagé, tu vois, à l'époque des débuts de YouTube et tout ça, là, de Facebook. Le premier truc que je balançais, c'était le chiquillet de McLovin. Et surtout, sur sa carte, il y avait marqué rien à part une seule ligne. Donneur d'orgasme. Ça n'avait aucun sens. Il mis ça sur une carte d'identité. Et il était là, genre, chiki, chiki, yeah! Et après, le deuxième truc dont je me rappelle, quand même, c'est le t-shirt de Jonah Hill, un moment au début. Il a un t-shirt de Richard Pryor.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, c'est la première fois où je comprends qui c'est Richard Pryor. Avant, je connaissais, tu vois, vite fait, mais okay. En acteur un peu secondaire et tout. Mais j'avais pas connu ça, tu vois, parce que en France, il est, enfin, tu vois, on a connu la grosse vague Eddie Murphy, mais on n'a pas connu la vague Richard Pryor.
Parce que pour ceux qui connaissent pas et qui nous écoutent, Richard Pryor, c'était un grand du stand-up aux États-Unis.
Ouais.
C'est même une des idoles de Jerry Seinfeld, par exemple. Donc c'est vraiment une icône.
Ah, c'est le boss. Toi, tu dis Pryor, t'es un vrai, toi, moi, je dis Pryor. Mais en vrai, en fait, je me suis rendu compte que c'est grâce à ce t-shirt de Jonah Hill dans Superbad que je me suis intéressé vachement plus à Richard Pryor après.
Pas mal.
Voilà.
Moi, mon premier souvenir, je l'ai vu en 2008, donc c'était l'année où j'arrivais à Montréal. J'ai dû louer au vidéoclub et c'était cool parce que il y avait, je trouvais ça rafraîchissant parce que ça allait dans une époque où il y avait tous les films de Judd Apatow. D'ailleurs, le film est produit par Judd Apatow, donc il y avait toute une sorte de nouvelle comédie. Parce qu'effectivement, il y a eu la période American Pie avec un humour un peu différent, mais là, c'était quand même un autre humour encore.
Ah oui.
Il y avait cet humour un peu très Apatowien, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, c'était cool de voir ça. Et ce qui était charmant, c'est que j'ai vu le film et je venais d'arriver à Montréal. Ça faisait genre 2-3 semaines que j'étais là-bas. Et 2-3 semaines plus tard, il y a un mec qui m'emmène dans une soirée. Et là, pour le coup, Driver, c'était vraiment une soirée à l'américaine à fond, quoi. J'imagine. Comme dans les films.
Canada.
Et du coup, ouais, Canada. Et donc, j'étais dans une soirée étudiant et avec un appart blindé, des meufs partout. T'sais, c'était vraiment comme dans les American Pie, quoi. Tu vois, c'était la première fois de ma vie que je vivais une soirée comme ça. Et effectivement, en France, on n'a pas ces soirées-là, en fait.
Non.
Et c'était fou, en fait. C'était trop bien. Et j'étais vraiment dans l'ambiance du film, quoi. C'était, c'était chambé. C'est quoi la vanne qui vous fait le plus rire dans le film, Driver? Je sais que t'en as cité une avec McLovin, mais est-ce qu'il y a une vanne comme ça qui te fait bien marrer dans le film?
Mmh, ah, je viens de la citer. Hein. Moi, le prince du RNB irlandais, je m'en suis jamais remis.
Parce que tu vois, moi, par exemple, il y a un moment que j'adore, c'est les deux flics.
Ouais.
Et il y a une scène à un moment donné où ils sont au bar avec McLovin.
Ouais.
Et juste, on entend dans le talkie-walkie, on entend un flic qui dit dépêchez-vous, venez, c'est une boucherie ici. Et lui, il coupe. Parce qu'il est en train de parler, il est en train de boire sa bière, il a pas envie d'y aller.
Il s'en fout totalement.
Et ça, c'est une vanne que j'adore. C'est ouais. Très drôle.
Non,
avec sa moustache.
Il y en a trop. Moi, le. Tout le passage, justement, en intro, le début du film où ils sont dans le cours de sciences.
Ah ouais.
Et moi, tout, quand Seth est en train de faire plein de grimaces et plein de scènes où, en gros, il dit à son, il fait comprendre à son pote, ah, tu vas la baiser. Donc, il fait plus. Et dès qu'on se retourne, il fait comme s'il y avait, il se passait rien. Ça, c'est des trucs qui m'ont tué de rire aussi.
En plus, la tranche de journaliste, quand il fait des grimaces, enfin, il fait des trucs, quoi. C'est un coup, c'est,
y a des trucs,
là, c'est pas possible.
Il y a des trucs juste, c'est même pas des vannes, c'est juste quand il arrive avec sa tenue pour aller à la soirée, une chemise de Texan, de cowboy, avec un pantalon à carreaux moulant, alors qu'il est tout boudiné.
Même
dedans.
Au niveau des tenues, c'est il y a aussi la manière dont s'habille McLovin pour aller acheter de l'alcool. Il veut s'habiller comme un daron.
Ouais, c'est marrant, ouais.
Toi, Mehdi, il y a une vanne, c'est ça que t'as fait marrer dans le film?
Non, moi, j'étais surtout étonné. Enfin, au départ, au début du film, je me dis, mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir sortir avec avec des filles aussi jolies. Mais si, en fait, jusqu'au bout du bout, c'est sérieux, quoi. Les filles sont intéressées par,
par ces énergies humaines.
Ouais, pas mal, en plus, que Emma Stone, tu vois. Aurélien, t'as eu une vanne qui t'a fait marrer dans le film?
Est-ce que j'en ai une vraiment particulière? En fait, c'est plein de séquences, c'est ça qui est un peu compliqué. J'avoue, McLovin, c'est quand même le premier truc qui me revient en tête tout de suite. Mais après, ouais, il y a beaucoup de. Je me rappelle d'une histoire avec le. En fait, j'aimais bien cette blague où tu sais, ils se parlent au téléphone, c'est au début là, et en fait, ils sont là en train de se prendre la tête à savoir s'il va lui filer, lui passe pour aller sur un truc porno là.
Ouais.
Ça dure des plombes et au final, il fait, je sais pas, on verra et tout. Et en fait, il raccroche et en fait, ils se retrouvent dans la voiture. Genre, ils se sont parlé jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la voiture. Il fait, bon, finalement, tu me le passes ton mot de passe pour le porno et tout.
Ah, c'est quand ils mettent le décolleté de sa mère.
Ce passage-là aussi, il est beau.
Ouais, non, mais tous les passages sont beaux.
C'est-à-dire quand la mère dit, ah, l'année prochaine, vous verrez plus, vous serez plus ensemble, vous allez vous manquer. Et t'as Evan qui dit, non, on va pas se manquer. Et t'as Seth qui regarde le décoté qui dit, ah, oh, si, on va se manquer. et il est complètement en train de fixer la mère de son pote. C'est horrible.
Il est méga perve, Seth, du début à la fin. C'est une galère.
Alors, Aurélien, ce film a permis de lancer à fond Jonah Hill, qui aujourd'hui est devenu un réalisateur très prometteur. Je conseille d'ailleurs à ceux qui ne l'ont pas encore vu son très bon premier film, Mid-90s. Comment ça s'est passé le début de carrière de Jonah Hill jusqu'à Superbad, qui marque son premier rôle principal?
Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jonah Hill, c'est quand même un mec qui a grandi dans la culture, dans la création. Son père était comptable, mais comptable des Guns N' Roses.
Ça, pas mal.
C'est stylé quand même.
Non, c'est cool.
Et donc, il était un peu dans les tournées des Guns, etc. Et sa mère était styliste, elle bossait beaucoup sur des clips. Enfin, ils étaient beaucoup dans l'ambiance musicale. Okay. Et donc, eux venaient de New York, de Long Island, mais ils sont installés forcément à Los Angeles. Donc, il a grandi à Cheviot Hills, un petit peu West LA, tu connais
Ouais.
Est-ce que c'est à côté de Santa Monica, un peu, à peu près?
Sur la route.
Voilà. Et donc, lui, il grandit là-bas et il grandit avec les Simpsons en tête, en fait. Okay. Et il est archi fan des Simpsons quand il est petit, quand il a 6, 7, 8 ans. Et en fait, ses parents mettent du temps à lui faire comprendre que, en fait, Springfield, ça n'existe pas, que les Simpsons, ça n'existe pas. Parce qu'en gros, quand il est petit, il écrivait sur, tu sais, quand t'écris, quand t'es à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il disait vivre à Springfield avec les Simpsons. Et donc, ses parents ont mis du temps à lui dire qu'Homer Simpson, c'était pas une vraie personne, qu'il y avait quelqu'un qui écrivait son personnage, en fait, et qu'il y avait une voix qui enregistrait, c'était du acting, en fait. C'était pas des vrais personnages qui existaient. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'écrire. je veux écrire des histoires, je veux être scénariste des Simpsons. Et c'est ce qui va lui porter, qui va le porter de 8 ans jusqu'à 16 ans.
C'est bon.
Il veut être scénariste, le mec, il veut écrire. Et donc, bah, il passe un peu son collège et son lycée à avoir ce truc en tête et à être un peu foufou, faire des blagues un peu comme on le voit dans Superbad, mais pas uniquement, parce qu'il fait un peu des blagues, un peu de l'humour noir, mais qui tombe à plat. C'est un peu son style. Et en fait, le gros déclic, c'est que après le lycée, il veut vraiment devenir scénariste, auteur. Et donc, il part à New York faire des études dans une école spécialisée, une fac qui est là pour justement l'aider à écrire. À la base, il veut écrire donc soit des séries animées, soit des films. Et donc, il se met un peu dans la direction d'acteur, comment écrire pour des acteurs ou pour des plays, donc des pièces de théâtre en gros.
Mmh.
Et donc il arrive à New York, c'est là, donc on est au tout début des années 2000, il a 20 ans et c'est là qu'il commence un peu à faire ses premières rencontres. Et il a 18-19 ans, ce qu'il a pas tout à fait l'âge pour aller dans les bars. Et c'est un peu ce qu'il explique, c'est que son école, elle se retrouve à East Village. Et il y a des bars en fait, des comedy clubs plus ou moins qui sont là autour. Et il a pas trop le droit d'y aller, mais il s'entend bien avec des potes de sa classe qui habitent dans le East Village. Et donc, tous les dimanches, il va dans un bar qui s'appelle le Black and White, et avec ses potes. Et en fait, c'est un bar un peu en mode beatnik, quoi. Genre, tous les dimanches, il y a du sort du slam, il y a de la poésie un peu. Et ça raconte des histoires, mais un peu sombres, tu vois. Des histoires de drogués, des histoires qui finissent par les trucs des morts et tout ça, tu vois.
Okay.
Et c'est un peu l'esprit du East Village, tu vois, un peu poétique, voilà, Velvet Underground et tout. Et lui, ça le fait marrer en fait. Et donc il se donne un défi avec ses potes de l'école, c'est d'y aller tous les dimanches et de monter un sketch, mais qu'il y ait que ses potes qui savent que c'est du bullshit, mais raconter des histoires trop sales d'un de ses potes qui est mort dans un caniveau et tout, et avec le délire de la poésie, tu vois, en mode parodie. Et en fait, il dit, ça devenait un challenge et tous les dimanches, j'y allais et ça cartonnait parce que mes potes étaient morts de rire parce qu'ils voyaient comment moi, je jouais. Et en fait, les autres gens croyaient que c'était un vrai sketch. Et fait, en fait, toute son écriture, elle s'est un peu mise dans ce truc-là, en fait, de on savait pas si c'était vrai ou pas vrai, tu vois. C'était son grand truc, tu vois. Et ses potes le trouvent exceptionnel et lui disent, genre, faut vraiment que tu rencontres mon père. Et là, Johnny dit, bah oui, ok, bah, moi aussi, j'aimerais bien que vous rencontriez mon père. Fait, non, t'as pas compris, faut vraiment que tu rencontres notre père. Et en fait, il s'avérait que c'était Rebecca et Jack Hoffman, qui sont les enfants de Dustin Hoffman.
Putain.
Et donc,
lui, il est bien le type.
Donc, au final, il se retrouve à un peu sortir avec Rebecca, la fille.
Donc il a eu comme beau-père Dustin Hoffman.
Voilà, pendant quelques mois, il a eu Dustin Hoffman comme beau-père. Et en fait, bah, Rebecca, elle trouve que Jonah Hill est hyper drôle. Jack va carrément faire un court-métrage où Jonah Hill sera un peu là, la rosta. Et donc il présente, il commence à traîner avec Dustin. Et à l'époque, il avait un autre truc qui créait Jonah, c'est qu'il faisait des canulars téléphoniques. Et son plus gros canular, en fait, c'était de se faire passer pour des assistants de célébrités auprès des lobbies des hôtels. Et il s'enregistrait en fait, il faisait des CD qui filaient à ses cours, c'était genre de Crazy Assistant. Et genre une de ses blagues, il expliquait que c'était genre par exemple, il pouvait appeler et dire « Ouais, je suis l'assistant de telle célébrité, on veut venir dans votre hôtel, par contre, elle a une otarie en fait. » Donc il faut qu'on crée un aquarium spécial pour son otarie. Et en fait ça dure un quart d'heure parce que les gens ils rentrent dedans et ils sont là genre il faudrait que la température de l'eau soit moins de 10 degrés et la pression soit machin, et en fait ça dure trop longtemps. Et Dustin Hoffman, ça le faisait marrer, il mettait le CD dans sa bagnole. Et après il a carrément demandé à Jonah de faire des canulars dans sa famille. Donc il faisait le même délire et Jonah a appelé dans la famille de Dustin Hoffman et il faisait le même genre de merde en disant bonjour, je suis l'assistant de Dustin Hoffman, et genre il m'a dit de vous appeler parce qu'il veut venir chez vous, mais il leur disait que de la merde et ça le faisait bien rire et tout. Et de fil en aiguille, à cette époque-là, on est en 2003, Dustin Hoffman, il bosse sur un film avec David O. Russell qui s'appelle I Hurt the Cabbies. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film.
C'est avec Jason Schwartzman, ce film?
Tout à fait. I Love a Cabbies, c'est un film avec... Il y a un casting de fou, en fait. Il y a donc Dustin Hoffman et Lily Tomlin qui jouent des sortes de psychologues étranges. Et il y a Jason Schwartzman. Il y a aussi Mark Wahlberg. Il y a même Saïd Tagmaoui. Et il y a vraiment... vraiment tout et n'importe quoi dans ce film. C'est un grand film choral, comme sait faire David Russell, un peu comédie, un peu drame, très absurde. Et Dustin Hoffman, il est à fond dans ce film, il kiffe, il a un rôle un peu fou, et il propose à David Russell Jonah Hill pour un rôle. Et il dit ouais, je pense que lui il peut être bien et tout ça. Et Jonah fait une audition et il est pris. Et donc son tout premier rôle dans un film, c'est quand même un film où il est parrainé par Dustin Hoffman, un film donc réalisé par David Russell où il est avec Mark Wahlberg, Naomi Watts, enfin c'est incroyable, tu vois. C'est il fou. A une scène où il est à table avec tout le monde et c'est son premier rôle. Et là il se dit bah truc de ouf, ça y est, j'arrête l'école, je lâche l'affaire, c'est parti quoi, je suis acteur en fait. Et au fil et à mesure, il s'est rendu compte que bah ce qu'il voulait être, c'est-à-dire auteur ou scénariste ou potentiellement réalisateur, enfin il préférait jouer lui-même les textes qu'il était en train d'écrire. Il avait toujours ce côté un peu scénariste, il voulait écrire lui-même. Il dira souvent que tous ces dialogues et toutes les histoires qu'il joue, il essaie toujours de réécrire un petit peu quand même des choses, mais il veut être acteur quoi. Et donc il se lance dans le truc et il se dit bah voilà, j'ai un premier rôle dans un grand film, c'est parti quoi. Et en fait bah il se plante. il lâche l'école en 2003 parce que le film sort en 2004, et en fait de 2004 à 2005 il se passe rien, mais vraiment rien, genre il a pas d'agent, il a aucune proposition, le film il marche pas, tout le monde s'en fout, personne le reconnaît, d'ailleurs personne sait vraiment qu'il a été dans ce film, enfin faut le revoir vraiment pour dire ah ouais putain il y a Jonah Hill à ce moment là parce qu'il a un tout petit rôle.
C'est dur de revenir à l'école après, t'as pas la force quoi.
Bah ouais c'est chaud tu vois. Et en fait ce que j'ai pas raconté, c'est qu'au tout départ il avait aussi ce délire de venir à New York pour écrire pour des shows. Parce que c'est le grand truc à New York, t'as des grands shows style Saturday Night Live. Et dans les années 90, il y en avait un qui cartonnait, c'était Larry Sanders Show, qui était vraiment un énorme truc aux US. En France, c'est vrai qu'on en parle très peu, mais aux US, ça a marqué énormément de gens. Et le Larry Sanders Show, dans les fins milieu des années 90, c'est Judah Apatow qui s'en occupe. C'est lui qui écrit, c'est comme ça qu'il aura d'ailleurs ses premières récompenses en tant que scénariste et producteur. Avant, il avait bossé sur le show de Ben Stiller et il était très proche de Adam Sandler, mais c'est vraiment avec le Larry Sanders Show qu'il va cartonner. Et Jonah Hill, il a ça en tête et il dit « Si je pouvais rencontrer Judah Apatow, j'adore ce scénariste, il n'est pas encore trop en vue et tout, franchement, ça serait chambé et tout ça. » Et en fait, il le rencontre pile au moment où Judah Apatow commence à devenir énorme parce qu'il vient de produire Ron Burgundy, Anchorman. Et à ce moment-là, Ron Burgundy, présentateur vedette, ça sort en 2004, en même temps que Hurt Cabbies. Et à ce moment-là, ça y est, bah voilà, ça cartonne. C'est le film avec Will Ferrell où il joue une sorte de présentateur pété à San Diego dans une télé locale. Film totalement incroyable.
Culte.
Et en fait, à ce moment-là, il commence à avoir vraiment beaucoup d'argent sur lui, là, Judah Apatow, et on lui propose de réaliser son premier film, qui va être 40 ans toujours puceau. Et en fait, Jonah Hill et Judah Apatow, ils se rencontrent pile à ce moment-là. Judah Apatow, il dit, bah là, voilà, Jonah, il par le biais d'un truc un peu foireux avec un agent et tout, il arrive à juste passer du temps avec Judah Apatow pour lui dire, je suis acteur, je suis scénariste, j'adore ce que tu fais, ce que t'as fait sur Larry Sanders, sur Freaks and Geeks, c'est incroyable. Et Judah Apatow dit, bah, ça tombe bien, je cherche un peu des nouveaux visages et des nouveaux acteurs parce que je veux réaliser mon premier film, en fait. Je sais que ça sera avec Steve Carell, je sais que ça va parler d'un mec à 40 ans et qui a toujours pas baisé, parce qu'on va parler de cul, clairement. Pendant tous ses films, il a prévu de parler de cul, mais je sais pas encore exactement ce qui va se passer. Et de la rencontre, va se créer deux carrières presque, parce que Judah Apatow, c'est le moment où il va vraiment devenir réalisateur, même si c'est pas avec Jonah Hill. Et Jonah Hill, en fait, il va tellement faire une impression incroyable à Judah Apatow que Judah Apatow va dire, bah vas-y, je te prévois un petit rôle dans 40 ans toujours puceau. Et donc il a un petit rôle un peu foufou dans 40 ans toujours puceau, où il joue un mec qui veut acheter des plateformes shoes dans lesquelles à l'intérieur il y a un aquarium. Bon. Et en fait, c'est une impro totale. Et Judah Apatow, il le trouve tellement énorme qu'il lui dit, bah vas-y, dès que j'aurai des rôles, dès que je pourrai trouver quelque chose, je vais te placer, tu vois. Et Jonah Hill dira que clairement, cette rencontre avec Judah Apatow et ce premier rôle, alors qu'il avait été d'abord adoubé par Dustin Hoffman, va complètement transformer sa vision des choses, tu vois. Mmh. Et surtout, il va revenir à ce côté écriture qu'il avait. Et qu'il avait un peu perdu parce qu'il voulait vraiment être acteur sur les débuts des années 2000. Et donc là, il rentre complètement dans l'univers de Judah Apatow. Et après ces deux, trois premiers rôles, parce qu'il a aussi un second rôle dans En cloque mode d'emploi, qui est tourné un petit peu après avec Seth Rogen. Donc là, voilà, il rencontre Seth Rogen, il se rend compte que voilà, c'est les poteaux, quoi. Il pense pour le coup à lui pour jouer le rôle de Seth Rogen jeune, en gros, dans une super comédie qui serait produite par Judd Apatow qui s'appellerait Superbad et qui est sortie juste après. Donc, bah, en vrai, j'en ai lu, il a été au forceps, il a dit, je pense que c'est moi qui dois jouer Seth Rogen. Ils ont fait plusieurs auditions et il a eu le rôle. Et après, bah, ça en découlait que c'est devenu une méga star avec un film. Et après, directement derrière, il a repris ce côté très scénariste qu'il avait et ce côté aussi pas uniquement acteur comique, parce qu'il avait ce côté un peu plus profond qui était là depuis le départ, ouais. Qui explique après ses rôles oscarisés ou au moins nommés avec le Loup Wall Street chez Scorsese ou Moneyball, ouais. Avec Sorkin et tout ça.
Après, c'est quand même allé assez vite. En fait, il a pas trop galéré, ça allait quand même assez vite quand même.
Non, parce que je crois qu'il avait ce truc un peu électrique où, il dira souvent que lui, il vient pas du stand-up. C'est vraiment un mec qui était scénariste, donc il écrivait vraiment. Il écrivait beaucoup, il faisait pas trop de show. Mais il avait ce côté où c'était le mec qui faisait les blagues dans la classe, quoi. Donc, il avait ses deux casquettes, tu vois. Ce qu'il dira à un moment que Judd Apatow, pour Funny People, donc le film qu'ils vont faire après, Judd Apatow avait demandé à tout le cast d'aller faire du stand-up avant. Donc, okay. Pendant 3 semaines, vous allez faire du stand-up. Et donc, il y avait Adam Sandler, Seth Rogen et Jonah Hill. Et Jonah Hill disait, moi, j'allais avec eux. On allait dans les comedy clubs, il y avait des open mic. Et genre, c'était à celui qui ferait le plus rire de gens, quoi. J'avais une horreur de ça, en fait. Parce que les autres, eux, ils avaient fait des stand-up toute leur vie, tu vois. Adam Sandler, c'était un stand-up cordé. Seth Rogen, il en avait fait pas mal aussi au Canada, donc il était assez chaud. Et il dit, moi, j'en ai jamais fait, en fait. Moi, je faisais que des blagues un peu cringe. Où je faisais des parodies, mais je faisais pas du stand-up en vrai.
Et tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que il y a sur YouTube, on peut voir les auditions de Superbad, ouais. Avec Michael Cera, le type qui joue McLovin, etc. Et il y a donc cette scène où on les voit en train de jouer devant les producteurs, une scène, donc McLovin, Cera et Jonah Hill. Et McLovin est hyper drôle. Ouais. Il est dans son rôle direct, il fait rire tout le monde et tout. Et on sent que ça énerve Jonah Hill, en fait, que l'autre soit drôle et que lui soit pas le gars, tu vois, un peu drôle parmi les trois. Ouais. Et c'est un truc qui a été dit après en interview et Jonah Hill a dit, non, mais si j'étais énervé, c'est parce que dans le film, je suis censé pas l'aimer, donc c'est pour ça que j'étais un peu énervé. Mais en gros, ceux qui étaient là autour disaient, non, il était un peu énervé parce que McLovin était très drôle et qu'il prenait tout l'aura dans la salle, quoi.
Ouais. Il y avait un peu de ça, il y avait de la compète et puis, il y a ce truc où en fait l'humour de Jonah Hill, il est pas si simple. Ouais. Il y a un côté un peu. D'ailleurs, dans tous ses rôles après, il dira qu'il choisira toujours des personnages qui sont un peu malaisants, tu vois. Genre il y a quand Sans Sarah rien ne va, qui est un film qui ressort un petit peu après là, Forgetting Sarah.
Ah mais aussi, il est hyper drôle. Il joue un serveur dans ce film. Il est hyper drôle.
Mais il est hyper creepy. Genre c'est un mec qui veut absolument des autographes de Russell Brand là. Il arrête pas de lui faire des trucs trop bizarres et il dit en fait moi c'est que des rôles comme ça qui m'intéressaient, c'est des rôles qui sont drôles mais en même temps qui sont un peu malaisants, tu vois. Et donc en fait tous les rôles ils sont un peu comme ça, même le rôle qu'il a fait avec quand ils ont fait This Is the End avec Seth Rogen où ils sont censés jouer leur propre rôle. Lui son rôle il est hardcore, tu vois. Il est très très sombre. Donc je pense qu'il a ce côté un peu en lui qui est plus dramatique que certains autres qui sont plus drôlatiques, disons.
Très bien, merci Aurélien. Alors finalement, Superbad, c'est un peu et aussi un film sur les premières fois. Du coup, je vais faire un tour de table et on va se remémorer nos premières fois. Alors pas toutes les premières fois, attention. Pas les premières fois les plus intimes, attention. Okay. Mais quelques premières fois qui vont un peu dans l'ambiance du film. Exemple, je vais commencer avec votre première grosse connerie à l'école. Driver, est-ce que tu te souviens d'une grosse connerie à l'école?
Moi, j'étais sage à l'école.
J'étais sage à l'école, apparemment. Un petit truc.
Non, j'étais.
Il n'y a pas eu d'heure de colle, apparemment.
J'étais très discipliné. Je crois que j'ai jamais été collé de ma vie.
Ah ouais? Mais non. Ah, aucune heure de colle.
Non, à l'école, j'étais à l'extérieur un peu moins, mais une fois que j'étais dans l'école, j'étais pas un bon élève, mais un élève pas perturbateur. Voilà.
Est-ce qu'il y avait des matières où tu étais vraiment mauvais?
Avec le temps, mathématiques.
Classique.
Mais avec le temps. Ouais. Au début, j'étais pas trop mal. Mais j'ai un moment, j'ai. Non, voilà. Non, j'ai la matière où j'étais vraiment nul. Mais c'est pas de ma faute. En espagnol.
Ah.
Parce que j'avais un professeur en quatrième. C'est en quatrième que j'ai commencé l'espagnol, si je me trompe pas, oui. Qui était très mou. Et du coup, on trichait tous. Et du coup, j'avais 18 de moyenne sans savoir parler.
Ce serait donc la plus grosse connerie à l'école.
Voilà. Et l'année d'après, en troisième, c'était pas le même professeur. Et du coup, je me retrouvais avec une prof qui était très sévère et on pouvait pas tricher. C'est là que je me suis rendu compte que je ne sais pas parler espagnol du tout.
Mais voilà. C'est dur espagnol en vrai.
En vrai,
ça
non.
Va vite.
En vrai, non, non, non. Mais j'ai raté ma première année et il y a eu un désintérêt. Je suis en train de rattraper parce que j'adore la musique latine.
Ok.
Et voilà.
Ça va, tu mets des A et des O partout là, ça va.
T'es un latinos lover apparemment.
Totalement.
Bah d'accord. Ah ouais, c'est Mehdi, est-ce que tu te souviens d'une grosse connerie à l'école?
De toute façon, on était ensemble hein, au
collège. Oui, c'est vrai,
au
c'est vrai qu'on était ensemble. C'est vrai.
On était,
on était ensemble dans un collège à Drancy dans le 93.
Ouais, la troisième E. Alors, faut savoir que quand on est dans la E, déjà, c'est qu'il y a un loup.
C'est un deuxième bâtiment qui est au fond.
Oui, en fait, ils classaient ça par lettres. Les troisièmes A, il y avait tous les intellos. Ouais. Et les E, c'était les pires, on était dedans.
C'était pire, mais on mettait toujours deux, trois intellos pour essayer de relever le niveau. Ouais. Dont moi. Je devais relever.
Arrête, genre, t'étais l'intello, ça.
Donc, non. Moi, j'aimais bien taquiner un peu les professeurs. Et avec JB, on taquinait le professeur, justement, d'espagnol.
Ah ben voilà.
Monsieur Rodriguez
qui nous il nous donnait toujours une photographie et il nous demandait en espagnol d'élaborer une histoire autour de cette photo.
D'écrire un texte
et avec JB on s'était dit qu'on allait lui poser il nous demandait en fait de si on ne connaissait pas la traduction de lui poser la question comment se dit le mot. Et avec JB, on s'amusait à lui donner dire des choses un peu farfelues, qui n'avaient rien à voir avec la photo. Donc ça donnait, pour un chat dans une litière, je ne demandais pas de faire voir le seigneur comment c'est dissé une boîte de spaghettis.
Et il savait que vous étiez en train de blaguer ou pas?
Non, il savait pas. Et le but, c'était de pousser au maximum sur des mots qui n'avaient rien à voir, jusqu'à ce qu'il s'en rende compte, et c'est JB qui...
Ouais, non, il y avait un péruvien dans la forêt, on disait comment se dit ces raquettes de tennis, mais lui ça le rendait ouf en fait, parce qu'à un moment donné il se disait mais qu'est-ce qui se passe quoi. Mais du coup ouais, c'est pas une grosse connerie.
Non, nous on était taquins.
Mehdi était plutôt sage. Aurélien, est-ce que t'as une grosse connerie d'école comme ça?
Non, c'est pareil. Je me rappelle d'un truc, moi on était plusieurs je crois, mais une prof, mais c'était à l'extérieur du collège. On l'avait mis un rondin dans son pot d'échappement.
Oh, c'est pas bien ça,
Je crois que ça va exploser.
C'est dangereux ça.
Ouais.
Cause la mort.
Je crois qu'elle était énervée, elle avait ramené sa voiture dans le collège et ça avait créé une embrouille de folie.
Ah, mais c'est vraiment ce qu'au début il fait, ouais, non, vite fait. Non, puis sa voiture, elle a explosé.
Je me rappelle pas d'avoir mis le rondin, tu vois. On était plusieurs. Mais après, c'était plutôt au lycée. Mais moi, c'était pareil. Mais je crois que c'est les langues vivantes, les mecs. Hein, parce que moi, c'était la prof d'allemand. Bon, voilà. Elle était éclatée au sol. Hein, on va pas se mentir. En première, je comprenais absolument rien à ce qu'elle disait. Donc, je faisais que de la merde. Et donc, je pense que j'ai pas fait beaucoup de cours d'allemand. J'étais souvent dans le couloir. Souvent, je faisais 3 minutes et elle faisait, oh, il y a un dehors. Bon, bah, ok.
Moi, je me suis viré une semaine du collège.
Ah ouais, quand même.
En troisième E. Et bon, franchement, c'était abusé une semaine pour ça, mais tu t'en souviens. En gros, on était en cours de techno, et à l'époque, vous vous souvenez, c'était la mode des lasers rouges, avec le petit point rouge.
Ah, il a fait le laser.
Et moi, j'avais le laser, et du coup, bon, je mettais sur le cul du prof et tout, ça régalait la classe, forcément. Et je le mettais derrière sa tête, et à un moment donné, il se retourne, et ça va dans ses yeux. Sauf qu'il en rajoute des tonnes, il fait « mes yeux
!» Un joueur de foot.
Ouais, voilà. Et du coup, là, j'en profite pour mettre le laser dans la trousse. Et là, il dit, il dit une phrase qui fait la pression. Il dit, si vous dites pas qui a fait ça, toute la classe est virée. Et ça met la pression parce que tu sais que t'as tous tes potes derrière, quoi. Ouais. Tu vois. Et là, il a fait appeler le principal. Le principal est venu. Ils ont commencé à fouiller les trousses. Première trousse, virée une semaine pour donner l'exemple parce qu'il y avait trop de lasers rouges dans le lycée, dans le collège. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je rentre chez moi. Donc là, je sais que je vais me faire défoncer par ma mère. Je rentre chez moi et il y a ma mère qui est au téléphone et sur un petit post-it, il y a marqué virée une semaine. Et là, elle me regarde et me fait attention à toi. Elle était au téléphone avec la principale et elle m'a dit attention. Et je me suis défoncé, quoi, bien évidemment. Et puis voilà, viré une semaine pour ça. Le premier baiser. Tiens, Mehdi, je commence avec toi. Premier baiser.
Ouais, j'ai eu un petit smack en maternelle.
Non, mais pas ça. Non, mais je parle. Non, mais attends, mais de quoi on parle là?
T'étais vraiment, tu veux.
Non, mais de quoi on parle là?
Vraiment les choses intimes.
Non, mais de quoi on parle là? Premier baiser, allez là.
Les choses intimes, toi.
Ouais, ouais, pas aller en maternelle là. De quoi tu me parles?
C'était en colonie.
En colonie, apparemment.
Ouais. Ah, je me souviens plus le nom de la fille.
Bah, bravo!
Mais c'était autour d'un feu de camp avec le jeu. C'était quoi le jeu?
Ambiance American Pie,
ouais,
un petit peu.
Ouais, c'était un peu ça. C'était un jeu de type action ou vérité. C'était,
ah, voilà.
C'était l'action, le célèbre action qui te permet d'embrasser les
filles. Dans un placard?
Non, c'était devant tout le monde.
Ah, ok, d'accord.
Driver, premier baiser.
Oh, c'était horrible.
Ouais.
Alors, c'était. En fait, je venais de changer de collège. Et donc, j'arrivais dans un collège où je connaissais très peu de gens. Et il y a une fille qui était merveilleuse physiquement, qui était dans ma classe.
Quoi, quatrième?
Donc, j'étais en cinquième.
Cinquième, pas mal.
On se rapproche et personne ne me dit rien. Et du coup, je commence à sortir avec elle. Et là, il y a quelqu'un qui m'aime bien dans ma classe, qui me dit, il faut que je te prenne sous mon aile parce que là, il y a des codes ici. C'est pas comme dans ton collège. Mon collège était plus cool, l'ancien collège. Et là, j'étais tombé dans le pire collège de la ville. Donc, ils me disent, il y a des codes ici. Ils me disent, par exemple, tu vois la fille avec qui tu sors? Son frère, c'est un très grand gangster.
Oh, c'est relou, ça.
Et on la trouve tous bien, cette fille. Mais elle est célibataire parce que on a tous peur de son grand frère.
Ah, est-ce, est-ce que ça te fait flipper à ce moment-là?
Totalement. Mais en même temps, quand je la vois, je peux pas la quitter. Donc, du coup, on continue à sortir ensemble et un jour, on doit s'embrasser, mais moi, j'y suis pas, en fait, parce que je pense à son frère. C'est pour ça que je dis que c'était pas le meilleur moment, parce qu'elle, elle était à fond et pas moi.
Donc, t'as eu le visage de son frère pendant que tu l'embrassais.
C'était un peu ça.
Okay. Okay, et c'est pour ça que t'aimes bien les feux de l'amour. Il y a un peu ce genre de...
Il y a peut-être un lien. Mais je regardais déjà, je crois, ce moment.
L'amour impossible.
L'amour impossible.
Ouais. Aurélien, ton premier baiser.
Ouais, je crois que c'était derrière le terrain de basket, là.
Pas mal. Ambiance Art Laker à vif.
Ouais, je crois. Je devais avoir 11 ans, peut-être.
Ah, 11 ans, d'accord, ok.
En cinquième, quoi.
C'est vrai, moi aussi, c'était en cinquième.
11 ans.
Cinquième, c'est un peu l'année où, où tu m'en prends.
Ouais, tu sais, t'as la sixième où tu découvres le collège et tu fais waouh, 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 c'est la guerre ici. Ouais. Et après, cinquième, tu fais ah, ok, d'accord.
Ouais. Moi, c'était une meuf qui s'appelait Jennifer. Et en fait, c'était une. Je crois que c'était une pote de ma sœur. On a un an d'écart avec ma sœur. Et en fait, elle était venue à la maison. Et on est dans la chambre de ma sœur à ce moment-là. Et c'est sous un poster des Space Girls que je l'embrasse.
Oh là là.
Voilà. Premier baiser, c'est dans la chambre de ma sœur.
Premier baiser, c'est une fille plus vieille.
Non, plus jeune, d'un an.
Ah, d'accord.
Voilà. Jennifer, sous le poster des Spice Girls.
Moi, je me souviens juste pour l'anecdote. Moi, je regardais mais aussi mes potes en colo embrasser des filles. Et ça me traumatisait parce que ils battaient le record de bouche contre bouche pendant des heures avec la bave qui coule. C'était une horreur.
Comment ils respirent?
Justement, comment ils respirent? C'était la question.
Moi, je me souviens en colo, il y avait un mec, rien à voir. Il y avait un mec en colo, il se faisait toutes les meufs. Et genre, c'était un peu le beau gosse de la colo. Et il avait dit un truc, je m'en parlais toute ma vie de cette phrase, parce que quand j'y repense, je me dis, bon, bah, c'est pas très beau gosse de dire ça. Il avait dit un truc pour faire beau gosse, il avait dit, moi, vous savez, je chie jamais. Ou alors le moins possible.
Pas mal.
C'est pour... il avait dit ça pour faire le beau gosse, tu vois. Sauf qu'après, il y avait un gars qui lui avait dit, il y avait une meuf qui avait dit un truc, ça avait cassé son délire, elle a fait, bah, c'est-à-dire que t'as le corps plein de merde. Et du coup, effectivement, il avait réfléchi, il s'était dit, bon, ouais, c'était peut-être pas beau gosse de dire ça.
C'est un coup avoir une occlusion à ce truc-là.
Première cuite.
Crevé, mec.
Est-ce qu'on se souvient de sa première cuite? Mehdi, est-ce que tu te souviens de ta première cuite?
C'était à cause de ma grand-mère.
Ah ouais, mais non.
Ouais. C'était au jour de l'an, j'étais avec ma grand-mère ce jour-là. Et ma grand-mère faisait du ménage chez des personnes.
Pour l'instant, on se demande pas pourquoi il va y avoir une première cuite.
Oui, tu vas comprendre. J'étais petit, hein, j'avais 7 ans.
C'est quoi ce délire?
Quoi?
Ma grand-mère, ouais, 7 ans.
Ouais.
Exactement. Ma grand-mère faisait des ménages chez des personnes âgées. Et donc, j'avais passé mon jour de l'an là-bas.
Super jour de l'an déjà.
Ouais, merci.
Meilleure soirée.
Et il y avait du champagne et je sais pas, ma grand-mère n'a pas fait gaffe et cette personne chez qui elle faisait le ménage me mettait du champagne et moi je prenais des boudoirs avec et je suis sauté le et en fait c'est parti très vite. J'ai voulu me lever, boum, je suis tombé.
Ah ouais.
Et j'étais bourré.
Putain, je connaissais pas cette histoire.
À 7 ans.
À 7 ans. Première cuite à 7 ans avec des boudoirs.
On ne battra pas son record.
Bourré à 7 ans.
C'est vrai.
J'avoue, moi c'est mort.
Driver, toi, première cuite.
Bon, moi, vous allez rigoler, je devais avoir 33 ans. Et d'ailleurs, c'est ma seule cuite.
Ok. On a un peu la même histoire, alors, du coup. C'est quoi,
J'étais à l'anniversaire d'une copine qui était en couple avec un monsieur très riche. Je ne dirais pas ce qu'il faisait. C'est dans la légalité, mais si je dis, on peut savoir qui c'est. Donc, je dirais pas. Qui était très riche et du coup, qui a invité beaucoup de gens dans une grosse boîte de nuit... aux abords des Champs-Élysées et j'étais invité. Mais sauf que moi, à part la fille en question, je connaissais personne. Donc je suis là, je suis assis, je m'ennuie hein, totalement, je galère et je regarde la table, comme son mec était très riche, il a acheté toutes sortes d'alcool, toutes les bouteilles du club étaient sur notre table. Et du coup, je commence à regarder les bouteilles d'alcool et je vois une marque que j'entends souvent citer dans des morceaux de rap américains. Comme je m'ennuie, je dis, bon, je vais goûter, je vais un peu vivre ce que vivent les rappeurs américains que j'écoute tant. Et j'ai pris un verre et sans faire de mélange, parce que je ne connaissais pas ça. J'ai pas la culture de l'alcool, moi, jusqu'à ce moment-là. Donc, je l'ai pris sec. Mon Dieu. C'était horrible. C'est-à-dire, le goût, j'ai détesté, mais tellement je m'ennuyais, je me suis resservé un deuxième verre.
Joli.
Puis un troisième. Joli. Et à partir du troisième verre, je sais plus où j'habite. Et j'oublierai jamais ce moment-là. C'est-à-dire que je tiens un poteau. Il y a un poteau dans la boîte. Je tiens le poteau et j'arrête des gens que je ne connais pas. Je dis, le poteau, c'est mon poteau. Les gens me regardent. Et à un moment, je décide de sortir du club et je suis sur l'avenue des Champs-Élysées tout seul et je marche. Je sais pas où je vais. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre mon téléphone portable. Il doit être 5-6 heures du matin. Et j'appelle mon ex. Mon ex.
Ouh là là là.
Ma meuf.
Aïe, aïe, aïe.
Et bien sûr, elle décroche pas parce qu'elle doit être en train de dormir. Et là, je lui laisse un message, ou pas. Et je lui laisse un message incroyable où je dis, moi, j'ai toujours été là pour toi. Et quand moi, je t'appelle, t'es pas là pour moi.
Aïe, aïe, aïe.
Alors qu'il est 6 heures du matin.
Est-ce qu'il y a des regrets le lendemain? Est-ce que le lendemain, il y a des regrets?
Ah non, mais le lendemain, je me tape ma première gueule de bois. C'est-à-dire, je me réveille avec cette barre sur le front que j'ai jamais connue de ma vie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive même pas à me lever de mon lit. Et là, je vois des messages de mon ex. Je dis, mais pourquoi elle m'appelle à ce moment-là, elle?
Ah, tu devais être content. Ouais, pas mal, elle revient.
Et non, même pas. Je me dis, mais je veux parler à personne, en fait, ce moment-là. Et j'écoute répondeur, message. Et là, je l'entends en train de dire, pourquoi tu m'appelles à 6 heures du matin si tu veux m'entendre? Et moi, je me rappelle, ah, je l'ai appelé. Et tout me revient, en fait. Et je l'appelle, non, je suis défoncé. Elle me dit, tu mens, tu bois pas. C'est ma première. Et ce genre-là, j'ai dit plus jamais je serais défoncé. J'ai pas dit que j'ai plus jamais rebu derrière. J'ai bu, mais jamais au point d'être défoncé et d'avoir cette foutue barre sur le front. J'ai plus jamais vécu et je suis content.
Pas mal.
C'était horrible.
Aurélien.
Bah, c'est un peu pareil, moi. Je crois que c'est autour des 36 ans, hein. 35 ans, 36 ans. J'ai jamais bu d'alcool avant. Donc, au début, j'étais mesuré, mais je me rappelle d'un été, Mais je crois que Driver était là en plus.
Ah ouais?
Pour mon anniversaire en 2018, je crois. Donc j'avais quand même 38 ou 39
c'était
ans.
C'était où?
On s'était croisés entre le Wanderlust, là, et tout, et après on s'était retrouvés.
Oui! Trappé. Ah ouais, non.
J'étais chaud, là.
Il était éclaté. Je me rappelle très bien.
J'avais fini par sonner Wanderlust et tout.
Je vous ai vu déjà dehors, vous étiez éclaté.
Ouais, on était chaud. Ouais.
Et là, on se voit, je dis, je vais animer une soirée. Venez!
On y allait.
Et alors là.
Ouais, j'ai fait n'importe
quoi. Super bad.
Ouais, c'était super bad de ouf, ouais. Ouais, non, c'était chaud. C'était juste après la Coupe du Monde, là. Et ouais, ça, par contre, c'était chaud. Mais bon, c'était mon anniversaire, ça va. Non, on avait fait chier tout le monde, en plus. On avait bourré tout le monde.
Et alors, du coup, quand t'es bourré, t'es relou, ou comment ça se passe?
Bah, tu sais, c'était à l'époque où il y avait, donc la Coupe du Monde, là. Et en fait, on criait tout le temps, Pavard! On avait fiché tout le monde, on se mettait à 8 à le faire et tout. J'allais voir tout le monde, j'allais au table, je faisais pas mal. Et après, il y avait genre les mecs du bar qui disaient, oui, bon, on a gagné, mais quand même, là, ça commence à faire chiant. C'était il y a 2 semaines et tout. Les gens, ils s'en vont du bar et tout. Alors qu'on était en extérieur, on avait fait chier tout le monde. Et après, ouais, on s'est baladé. En fait, j'ai l'alcool joyeux. Et après, je m'en rappelle pas grand de tout. Parce que après les gens ils font mais t'es parti où? Je sais pas, je suis allé pisser, ça a duré 10 minutes, mec ça fait 1h30. Non, je suis juste allé pisser. Et voilà. Et après des fois le retour est très long, très très long.
Moi je bois pas d'alcool, j'ai jamais eu ce truc de boire de l'alcool comme toi dans River. Et en fait c'est arrivé assez tard, c'est quand justement j'y vais à Montréal et là-bas ils ont l'habitude d'aller dans les bars après et de boire de l'alcool, de boire des pintes, etc. Mmh. Moi j'arrivais toujours, j'étais avec mon Sprite zéro en plus. Et du coup, ils étaient là, genre, bon, bah, mec, à un moment donné, faut boire de l'alcool, vas-y, quoi. Et un soir, je me dis, bon, allez, pourquoi pas, je tente. J'avais jamais bu de ma vie, quoi. J'avais dû peut-être boire un peu de champagne, vite fait, mais jamais vraiment d'alcool. Ils me prennent une pinte de bière, plus un petit shot de vodka. Je bois le shot de vodka, je bois la moitié de la bière. J'étais cuit, quoi. C'était terminé pour moi, en fait. C'était vraiment fini à ce moment-là, quoi. Et je suis rentré chez moi, j'ai gerbé toute la nuit, mon gars. Je suis resté toute la nuit devant les shots, quoi. Juste pour un shot de vodka et j'ai plus jamais bu d'alcool.
Non, mais la bière, c'est horrible, mec. La bière, ça te remplit, ça, c'est. Moi, je déteste les cuites à la bière. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Et enfin, bon Sky, ça va.
Ouais, ça va, pourquoi pas.
Cognac.
Et enfin, pour terminer, votre premier crush célèbre, parce que quand on écoute le premier album de Driver, on se rend compte que t'en as eu pas mal. Il y a Vanessa Demouy, il y a Sophie Favier,
Il
y a Julia Chanel. Est-ce qu'il y en avait d'autres?
Ouais, il y en a plein. Toute ma vie. Il y en a encore maintenant.
Qu'est-ce qu'il y avait comme crush d'adolescence connu comme ça?
Adolescence.
Alors déjà, est-ce que t'as pu rencontrer Vanessa Demouy finalement?
Ah oui, je tourne un clip avec elle.
Ah mais oui.
Aïe aïe aïe, on est ensemble.
Bah oui, c'est vrai. Mais du coup,
et j'ai fait un grand caprice à maison. J'ai dit, si elle vient pas, je viens pas à mon propre clip. Donc vous me la trouvez.
Et Sophie Favier, c'était compliqué ou pas? À avoir.
Non.
C'est à l'époque, enfin, c'était la star de Coucou, c'est nous, à l'époque.
C'était compliqué dans le sens où, quand on demande Sophie Favier, elle nous dit non, parce qu'elle dit, j'ai une mauvaise expérience avec les rappeurs. Je suis passé à la télé dans une émission avec Doc Gynéco. Il a fait que de me vanner. Donc, du coup, j'aime pas les rappeurs.
OK. Mmh.
Et j'ai dû faire tout un stratagème que je ne peux pas raconter ici parce que je suis en train d'écrire mon livre et ça sera dedans.
Ah, pas mal.
Voilà. Mais pour répondre à ta question, mon premier crush américain, là, je me souviens, c'était Tiffany Amber Thiessen.
Ah oui.
Kelly Kapowski dans Sauver par le Gong. Et Valérie Malone dans Beverly Hills.
C'est vrai. Tellement méchante dans Beverly Hills.
Et c'est là que je l'ai vraiment préférée.
Ouais. Ah, c'est vrai.
Et Darkus. En France, je crois que c'était Sophie Favier. Hein.
Ouais, Sophie Favier.
C'est pour ça que dès que je fais mon premier album, je dis je veux Sophie Favier. C'est juste pour mon fantasme
pas mal.
D'adolescent.
Mehdi, est-ce que tu avais un crush comme ça célèbre? Ton premier crush célèbre?
Ouais, j'en avais deux. Il y a Alyssa Milano dans Madame et Sarvi.
Mmh. Ouais, très jeune, toi, pour le coup.
Non, mais j'étais un peu plus jeune, même qu'elle.
Ouais, c'est pour ça que c'était un crush quand c'était enfant.
Mais Mehdi, il fait tout à 7 ans, lui.
Et j'aimais bien aussi DJ dans La Fête à la Maison.
Ouais, la voix très. Dégage, avec ses joues, tout ça.
Ah, j'étais sûr que t'allais dire Anna Kournikova, la tennisman.
Ah, ça c'est plus tard, oui.
Ah oui, oui, c'est vrai
qu'il y en a. Plus tard.
C'est vrai qu'après, avec l'âge,
Anna Kournikova, effectivement aussi.
Ouais, moi, je suis Svetlana Kuznetsova.
Ça, c'est.
Ah ouais.
Une joueuse de tennis.
De tennis aussi.
Je suis totalement fan, je la suis sur les réseaux sociaux.
Ah ouais.
Des fois, je lui dis que je l'aime et tout. Elle met des likes sous mon commentaire.
Ah,
pas mal. Voilà.
Ah, quand même.
Mais t'as eu Vita aussi, parce que t'as fait une chanson.
Ouais, Vita, c'est. Déclaration d'amour avec une guitare où je jouais pas du tout. Je dis ça parce que mon père qui joue de la guitare, quand il a vu le clip, il a dit n'importe quoi. C'est même pas les bonnes notes. Donc, voilà, mais ouais, vite.
Aurélien, c'était quoi toi tes premiers crushs célèbres?
Moi, je me rappelle de Winnie dans Les années coup de cœur. Quand j'étais vraiment enfant.
C'est laquelle?
Je sais même pas.
Ça me dit rien.
C'est laquelle? Il y a qu'une fille. Enfin, genre.
Dans Les années
Coup de cœur, tu sais.
Oui. D'accord.
C'est quoi, c'était un dessin animé ou un
film? Non, non.
Mais non, les années coup de cœur, les gars.
Je connais pas.
Avec Fred Savage et tout. Vous vous rappelez pas de ça?
Ah, si.
Une famille dans les années 60 et tout.
Ouais, je le trouve.
Bien sûr. Et il n'y en avait pas d'autres? Parce que là, on voit pas trop.
Ouais, je pense que tout le monde s'en fout, j'ai bien vu. Non, il y avait dans Extrême Limite.
Ah oui! Ah oui, il va chercher du lourd, là.
Astrid Veillon.
Ah oui!
Astrid Veillon. Et après, il y avait, après Extrême Limite, il y avait dans Jamais deux sans toi. Genre, j'ai vraiment un flash de ce truc. Il y avait Astrid Veillon et il y avait une autre. Il y avait deux filles en fait et un man. Et là j'avais un kiff, j'avais un crush pour les deux filles. Voilà.
Ok.
Puisqu'il a dit Astrid Veillon, je tiens juste à dire que bon, je fais un lien dans ma tête. Hein, peut-être qu'il y en a pas. Que actuellement, je suis amoureux d'Alessandra Sublet.
Voilà, ah.
Je trouve qu'elle a le même
regard.
Ouais,
c'est vrai.
Donc ça veut dire qu'en 98, elle aurait pu être dans une interlude. Sublet.
Ah, peut-être qu'elle peut l'être en 2021.
Elle peut l'être.
On ne sait pas.
Écoute. Moi, en fait, il n'y avait pas Alyssa Milano. Moi, c'était. J'étais peut-être un peu plus milf parce que moi, c'était Angela Bauer.
Ouais. Ah ouais, carrément.
Ouais, moi, c'est bah, c'est la mère d'Alyssa Milano qui m'a jamais servi.
Oh mon dieu. Ah ouais, mais moi, j'adore Peggy Bundy. Moi, je suis dans Peggy Bundy.
Ah oui, c'est vrai. Mais non, moi, c'était Angela Bauer. Il y avait aussi. Sybil Shepherd de la série Claire de Lune Moonlighting avec Bruce Willis.
Ouais, c'était
joli.
Qu'on peut voir dans Taxi Driver aussi. Et après, par la suite, c'était Dana Scully dans X-Files.
Ouais, Scully,
c'était. C'était un sacré crush.
Quand même.
Ouais mais je sais pas pourquoi, tu vois. C'était.
Faut aimer les tailleurs.
Ouais, c'était un crush, Scully. Excuse-moi, Aurélien, en même temps.
Hein. Non, mais okay,
il m'engueule de mon crunch. Non,
mais... Vous avez dit que Winnie, elle était claquée.
Et du coup, il a mal pris,
je suis un peu énervé, les mecs.
Alors, vous qui nous écoutez, si vous étiez autour de la table avec nous, vous remarqueriez très certainement qu'un point commun nous unit avec Mehdi, Aurélien et Driver. Je prenais pas ça avec Driver, mais je crois que je dis pas faux. C'est la calvitie, non?
Ouais,
il y a un peu de calvitie quand même.
Je suis clairement dedans.
Ouais. On est tous un peu atteints par la calvitie.
Ah, oui.
Non, on peut le dire.
Ça attaque, ça attaque.
On peut le dire quand même. On est plus ou moins marqué par ce fléau, surtout Mehdi.
Non, je suis comme Mehdi.
Et ça tombe bien, Mehdi, parce que tu nous as préparé un petit jeu en lien avec la chute des cheveux. Tu vas nous expliquer pourquoi.
Mais c'est quoi le lien avec Superman?
Non, mais et s'il n'y avait pas un lien avec quelqu'un autour de ce plateau, justement?
Alors, en intro de ce podcast, je t'ai vu très ému par les confidences de Jean-Baptiste sur ton album.
Ouais.
Le premier album que tu as sorti.
Ouais.
Tu vas être ému une deuxième fois parce que j'étais avec lui à cette époque-là.
Ah, ok.
Donc j'ai vécu un peu tout ce qu'il a retracé à travers ton album.
Uh-huh.
On a chanté ton hit Aïe Aïe Aïe.
Aïe, je comprends.
Aïe Aïe Aïe.
Aïe, je vois venir.
Driver style qui rase et fait des coupes à la Yule.
Exactement.
Aïe 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 Aïe, devinez qui déboule. Driver style qui rase, fait des coupes à la Yule.
J'ai compris que la semaine dernière, uniquement ce que voulait dire coupe à la Yule. Parce que pendant longtemps, je pensais que c'était une expression qui venait peut-être de ton quartier, coupe à la Yule.
Oui,
mais non,
oui,
non.
Oui, oui. Non, elle vient.
Elle vient.
Elle vient de là, mais elle a une référence cinématographique.
Voilà. Parce qu'en 98, quand même, les personnes, les crânes chauves les plus connues, c'est quand même Fabien Barthez et Kojak. Ça aurait été plus simple que tu dises coupe à la Kojak.
Non, pas Fabien. Tout dépend de l'âge qu'on a. Je commence à avoir un âge très avancé. Et justement, nous, le plus célèbre, c'est ce Yule.
Ouais.
Mais alors, qui est Yule Mehdi alors?
Bah, c'est Yule Brunner.
Bah ouais.
L'acteur des Sept Mercenaires.
Exactement. Et comme ce film est un classique, il apparaissait à la télé comme ça, sans cheveux. C'était la première fois qu'on voyait ça. Moi, j'étais tout petit et tout. Et bah, tout le monde dit ça. Et dans mon quartier, dans les années 90, les gens, quand tu te rasais le crâne, disaient « Ah, t'as fait un Yule !»
Ouais, donc voilà, donc il y avait vraiment un sens à ce moment-là.
Et c'est ça. Et ça aurait pu être Kojak ou quoi, mais c'est venu après. Alors, Barthez, vraiment plus tard. Donc, ça aurait pas pu marcher.
Et donc, Mehdi, alors?
Et donc, du coup, on va pas parler chinois, mais on va parler chauve pour ce jeu. On va trouver des acteurs chauves dans des films où, à l'époque, ils avaient des cheveux.
Donc en gros le deal c'est qu'il va donner un film où l'acteur a des cheveux, mais il faut trouver qui est le chauve, l'acteur chauve, parce qu'il est devenu chauve plus tard.
Ok.
J'ai rien compris.
On va commencer par un très simple.
Ok.
Si je vous dis Halal, police d'État.
Eric Judor.
Exactement.
Bravo. Ah. Parce que dans Halal, police d'État, il a des cheveux.
Ah ouais.
Donc en gros c'est ça le piège, c'est qu'il va vous donner des films dans lesquels l'acteur a des cheveux, mais en vrai c'est un chauve aujourd'hui.
Ah, okay.
T'as capté ou pas?
Ok, c'est bon.
Et en plus, tu vas faire un autre truc en plus après midi, en plus de ça.
Qu'est-ce que je dois faire?
Eh ben, tu vas donner une petite astuce avec Calvici.
Eh ben, je vous en donne une déjà tout de suite.
en gros, celui qui trouve la bonne réponse a une astuce pour éviter la Calvici.
Okay. Donc là, t'as trouvé la bonne réponse. Je vais donner une petite astuce déjà pour commencer. On va commencer soft. Déjà, c'est juste rabattre une mèche un peu longue sur le dessus. Ça permet de camoufler.
Avec moi, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, mes cheveux ne poussent pas en avant comme ça. Le peu de cheveux pousse là sur les côtés. Je peux rien rabattre.
Faut savoir que toutes les astuces, tu les as trouvées sur Internet. Hein.
Sur Internet.
Et c'est une des premières qui reviennent, qui est adapter la coupe.
on y est tous passés.
Ouais, c'est vrai.
Tous les débuts de calvitie, on a tous tenté pour essayer de tenir un peu encore le truc, mais à un moment donné, on lâche.
Est-ce qu'on valide juste la mèche quand c'est chauve et on met juste une mèche au-dessus?
Non, pas fan, moi.
Non, ça valide pas, ça.
Moi, je suis pas fan.
Personne ne peut valider
moi,
ça.
Moi, je pense qu'il faut tout enlever à ce moment-là.
Ouais, mais il y a des gens qui mettent du temps à le comprendre. Tu vois. Ça prend du temps de faire le deuil. Hein.
Ouais, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile. Non.
C'est vrai.
Ok, mais dis deuxième.
Je rigole bien, Aurélien.
Je rigole parce que je sais que c'est pas facile. Hein.
Le bûcher des vanités.
Ah, ok. Je ne connais pas le film.
Bruce Willis.
Oh, joli.
Je ne connais pas du tout le film.
Bah, bûcher des vanités, il a des cheveux, Bruce Willis, dedans.
Okay. C'est vrai.
Et maintenant, c'est un des chauves les plus connus.
Ouais. Hein. Et lui, pendant longtemps, il a eu une sorte de brosse un peu limite.
Ouais, dans le chacal.
Ouais, ouais.
Dans le chacal, il a une brosse.
Il a genre une brosse, mais genre juste au milieu, comme ça. Brosse punk.
Est-ce que tu me dis bon. T'as une petite astuce, calvitie, du coup, alors maintenant.
Driver, tu aimes cuisiner?
Oui, ça va en ce moment. Ouais.
Et bah, justement, là, ça va peut-être te plaire, cette petite astuce. Tu prends de la moutarde, tu ajoutes un yaourt, tu mélanges.
Oula.
Et après, juste. Et tu masses sur ton cuir chevelu.
Quoi?
Et ça, c'est censé faire repousser les cheveux?
C'est censé, effectivement, faire repousser les cheveux.
Non, mais attends, c'est vrai, ça? C'est vraiment marqué?
Ah oui, c'est vrai.
C'est
vraiment
marqué. C'est quoi, c'est délire? Mais genre, ça marche, ça.
Qu'est-ce que je dis? C'est ce que j'ai trouvé.
De la moutarde.
De la moutarde, oui.
Bah, juste puis du crâne, non?
Ok.
On va faire ça pendant quelques semaines et apparemment, ça fait repousser.
Ok, super.
Est-ce que tu penses que des gens vont tenter ça après avoir écouté le podcast?
Il y en a qui l'ont fait, en tous les cas, puisque j'ai des retours positifs.
C'est vrai qu'il y en a qui ont des retours positifs. Ok, prochain acteur à trouver. Prochain acteur chauve.
Arnaque, crime et botanique.
Comment il s'appelle, ce mec? Attends.
Il en a toujours un deuxième aussi, Mehdi. Hein. Il y a toujours un deuxième film à te faire.
Snatch.
Ouais, je vois sa tête.
Ah bah, Statham.
Joli. Effectivement, il a des cheveux dans ces films-là.
Eh, c'est vrai qu'il a encore un peu des cheveux. Un peu à la Bruce Willis, quand même. Une sorte de brosse.
J'arrive pas à l'imaginer, en fait. Je l'imagine sans cheveux, alors que j'ai vu ses films plusieurs fois.
Qui était un ancien grand nageur, je crois.
Plongeur.
Plongeur, ouais. Plongeur de Jason.
Incroyable.
Est-ce que tu as une autre petite astuce, Calvitie, alors pour ceux qui nous écoutent et qui ont manque de cheveux?
Bon, bah alors cette fois-ci, je vais citer un peu mes sources, puisque des gens doutent autour de cette table. Donc là, j'ai été la chercher sur Doctissimo. Donc là, véridique, hein, c'est mot pour mot, hein, y a rien inventé. Donc là, c'est QQ01 qui nous dit J'urine dans un verre le matin.
Non, ça commence trop mal. Non.
Je le mets sur mes cheveux.
Oh non.
Je masse le cuir chevelu.
Mais qui fait ça?
J'attends 3 minutes.
3 minutes en plus.
J'applique mon shampoing. Je laisse reposer. Je rince. Je réapplique le shampoing. Je re-rince. Plus tu de plus rien.
Plus tu de plus rien. Attends, et donc ça, c'est un com qui est sur Doctissimo.
Exactement.
D'un gars qui urine chaque matin dans son verre et qui se le met sur
les cheveux.
Oh, le verre horrible.
Je pense que c'est un troll. Je pense que c'est un troll qui veut juste que les gens pissent dans des verres.
Ça. Ça se trouve. Hein. En tout cas, apparemment, ça peut fonctionner.
Ça a l'air de marcher, ouais.
Ça a l'air de marcher. Bah, on vous conseille.
Normalement, ça fonctionne. Je vous conseille, en tout cas, de tester ceux qui en souffrent. En tout cas,
vous
tester
un petit cas.
Personnellement, moi, j'ai tout testé à une époque. Donc, c'est mieux que de prendre des médocs ou.
Oui, c'est mieux au niveau budget.
Franchement, voilà, au niveau budget, c'est mieux.
Ok, prochain acteur chaud, va deviner.
Un prince à New York. Un prince à New York.
Ah, un prince à New York.
Amos. John Amos.
Non, c'est pas John Amos.
Attends, un prince à New York.
Il joue dans Un prince à New York. Film avec Eddie Murphy.
Eddie Murphy, il est pas chauve, hein.
Est-ce que t'as un deuxième film, Mehdi?
Alarme fatale.
Alarme fatale.
Comment il s'appelle? Je le vois. Celui qui joue le rôle d'un balayeur, là. Il vient braquer le McDowell, là.
Exactement, exactement.
Ah, Samuel Jackson.
Samuel Jackson. Atteint de calvitie, malheureusement, oui. Samuel Jackson.
C'est vrai qu'à un moment, il a des petits cheveux de l'espace.
Bah ouais.
Pas ouf.
Hélas. Est-ce que t'as un petit conseil à avoir calvitie?
Alors, toujours dans le culinaire. Alors, vous prenez une casserole, vous le faites chauffer de l'eau. Mm-hmm. Voilà. Vous la mettez au maximum. Vous jetez quelques feuilles d'ortie dedans.
Ok.
Vous laissez chauffer à feu doux pendant 30 minutes. J'essaie d'être précis parce qu'on sait jamais.
Oui, parce qu'il y en a qui vont vouloir vraiment tester. Exactement. Qui nous écoutent.
Vous retirez le feu, puis vous filtrez les feuilles.
C'est relou déjà.
Vous versez du vinaigre de cidre et vous mélangez. Vous versez le tout dans un flacon. Après le shampoing, vous frictionnez vos cuirs chevelus pendant au moins 10 minutes et vous rincez à l'eau froide. Alors, okay. Personnellement, cette recette, moi, je l'ai essayée dans ma salade. Ça fait une formidable vinaigrette.
Prochain acteur chauve.
Proposition indécente.
Ah, je l'ai pas.
Ok. Attends. Deuxième film.
Les blondes savent pas sauter.
Ah, Woody.
Joli.
Woody
Harrelson. Ouais. Oui, Proposition indécente, qui est un film avec Demi Moore et Woody Harrelson. Et alors, du coup, je vais vous poser la question, vous me dites si vous êtes OK pour faire ça. Tu l'as déjà vu, ce film Driver, ou pas, Proposition indécente?
Non.
En gros, le concept du film, c'est Woody Harrelson qui sort avec Demi Moore. Donc, couple jeune, ils sont à la cool, tu vois, ils sont beaux, etc. Sauf qu'ils ont plus de thunes, plus aucune thune. Il leur reste 5 000 $. Et Woody Harrelson, il dit à sa meuf, écoute, j'ai une idée. On va à Las Vegas, on utilise les 5 000 $ et on tente le tout pour le tout, quoi. Ils y vont. Et sur place, t'as un mec méga blindé, méga beau gosse, qui est joué par Robert Redford. Et Robert Redford, il a un crush pour Demi Moore. Mmh. Il va la voir, il leur fait une proposition, il dit « Je baise avec ta femme, je vous file $1 million. Mmh. Vous avez la proposition sur la table, vous êtes en galère de thunes, j'ai juste une nuit avec ta femme, $1 million. Mmh. » Je vous pose la question, est-ce que vous le faites? Dans la même situation que Woody Harrelson. Après, c'est un truc à discuter avec la meuf, vous discutez ensemble entre couples, ouais. Est-ce qu'on le fait, quoi? Mmh. Qu'est-ce que vous faites? Parce que, en fait, c'est l'intérêt de ce film, c'est que pendant tout le film, tu dis, est-ce qu'on le fait, nous aussi, ou pas?
Ah, moi, si ma femme est d'accord, je suis d'accord.
Ah, t'es d'accord, toi?
Ah, non.
Mais après, t'es pas en mode, ah, finalement, ça me saoule, elle a couché avec lui.
Non, on avait besoin d'argent.
Ouais. Ah, toi, tu le vis tranquille.
D'un commun accord.
Ok.
C'est du business.
Mais voilà. Dis, est-ce que tu le fais, toi?
Même pour moi, je crois. Je crois 50 000, ça passe. Hein. Je crois. Hein.
Sur Robert Redford. Je sais pas.
Mehdi demande à participer. Aurélien, est-ce que tu fais, toi?
Bah, je sais pas, c'est elle qui choisit, enfin, c'est son corps. Hein,
moi, non, faut décider à deux, là ça se décide à deux, quoi.
Bah pourquoi?
Bah parce qu'après, toi, tu peux être un peu, genre, t'es un peu saoulé, quoi.
Oh non, enfin, je veux dire...
Pendant que tu joues au flipper en bas, là-haut, ça y va, quoi.
Moi, ça c'est... Enfin, je veux dire, quand même... Les personnes sont individuelles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, même si on est ensemble, quoi.
Quelque chose,
quel homme moderne.
Si toi, t'es pas d'accord.
Bah, si je suis pas d'accord, en fait, moi, je peux, enfin, il y a Robert Redford qui va avoir une meuf, cette meuf-là, elle est en couple, il lui dit, bon, je te file $1 million, et voilà, pendant une nuit. Bon, après, elle va discuter avec son couple pour dire ce truc. Mais je vois pas à quel moment Robert Redford, il va parler avec le mec
non, enfin, non, c'est pas ça.
La meuf, elle vient, elle parle avec toi. Voilà.
Ah ouais.
On a 5 000 $, on est en galère. Mais là, on me propose $1 million. Qu'est-ce que t'en dis?
Oui, c'est ça.
Ouais, bah, en vrai, si elle, c'est ce que je dis, si elle, elle est d'accord, après, bah, je dis, ok, ok, pourquoi pas, tu vois. C'est...
Enfin, demande un petit intéressement sur le million, quand même.
Oui.
Moi, je pense, ouais, je sais pas. C'est difficile comme question.
Ouais, je sais pas.
Non, pour moi, c'est facile.
Bon, après, si
je rajouterais même, par contre, pendant que vous faites vos affaires, je peux aller voir quelqu'un d'autre.
Ouais, il veut tout. D'ailleurs, il veut tout. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut tout.
Ça aide à faire passer la pilule.
Il reste combien d'acteurs, Mehdi?
Bah, attendez, j'ai pas donné, moi, ma.
Ah, bah oui, la petite, ma petite astuce. Une petite astuce encore.
Alors... alors, si les lotions n'ont pas marché, ce qui est possible. Ce qui est possible. Il reste les implants en Turquie.
Ah, les fameux implants en Turquie, bah oui.
Pour ça, j'ai une très bonne adresse. Donc, c'est une des meilleures adresses en Turquie pour faire des implants. Donc, ça se situe au 97 boulevard PG Galatasaray 4-0, au but de Leonardo, des Grades, Rai, Loco. Vous serez reçu par le docteur Hakan Soukour.
Ok. Non, mais tu sais que c'est la folie, ça, les implants en Turquie. Tout le monde y va, j'ai l'impression.
Ouais, ouais. Ça, par contre, j'ai des amis qui l'ont fait et tout.
Et en plus,
et
apparemment, ouais, ça marche bien, ouais, apparemment.
Ça marche.
Moi, j'ai pas confiance.
Mais moi, j'assume mon. J'ai plus de cheveux.
Ouais, mais je crois qu'on est tous des gars qui assument.
Le crâne aussi. Et c'est tout, quoi.
Faut avoir des cheveux derrière, apparemment. Déjà,
ah ouais,
si t'as pas de cheveux derrière.
Ah, ça va chercher les cheveux qu'il y a derrière, en fait.
Faut les récupérer quelque part, ouais.
Moi, je pensais que c'était les fesses, en fait.
Non,
je pensais vraiment que c'était ça. Et c'est
non, c'est tes vrais cheveux. Il faut que t'aies une zone donneuse. Et j'espère que ta zone donneuse, elle est pas au niveau de ton fessier.
Non, ouais, je pensais qu'ils allaient chercher les cheveux, les poils un peu partout, quoi.
Non, c'est pas les poils, c'est vraiment des cheveux. Et c'est derrière tout.
J'en ai derrière, moi.
Bah, c'est plus. Là. C'est si t'as une bonne zone donneuse, ils prennent de là et ils mettent là.
Moi, ça m'intéresse pas. Je ne ferai pas de couleur quand j'aurai des cheveux, enfin, cheveux blancs. Ouais, sur les côtés, quand j'aurai des cheveux blancs, je laisserai vivre.
Ouais, je suis assez d'accord. Les couleurs, c'est grillé à chaque fois. Ça fait des cheveux un peu violets, un peu. Genre, toujours un peu dégueulasse, quoi.
Violet.
Très bien. Mehdi.
Liaison dangereuse.
Liaison dangereuse. John Malkovich.
Oh, joli. C'est vrai que c'est un chauve.
Grand chauve, lui.
Un des chauves connus, John Malkovich.
C'est vrai qu'il y a une perruque dans.
Et dans L'homme au masque de fer aussi, il a une perruque.
Ouais, c'est pour ça qu'il a des cheveux.
Il a des cheveux longs.
Il a jamais eu de cheveux, lui, je pense.
T'as encore une astuce pour les gens en perte de cheveux qui nous écoutent?
Justement, la perruque, et je voulais poser à Driver la question. Qu'est-ce que tu penses des perruques?
Je les adore sur les filles.
Ouais.
Et sur moi, ouais, pour rigoler un jour, pour dans une soirée costumée. C'est tout.
C'est toujours un peu grillé, quand même, les perruques, hein. Quand ouais. Un mec a un toupet ou quoi, c'est...
Un toupet, c'est stylé, ouais.
C'est toujours un peu grillé,
une
quoi.
Une postiche.
Une postiche, ouais.
Et puis j'ai des souvenirs d'enfance, dessins animés de Tom Sawyer, hein. Et le prof, Monsieur Dobbins, là, il avait une perruque.
Ouais, exact, ouais.
Un jour, ils ont mis un chat pour lui retirer la perruque et il s'est énervé, il a fouetté tout le monde.
Et d'ailleurs, en parlant de toupet, vous savez que Sean Connery, dans tous les James Bond, il avait un toupet.
Ouais, c'est vrai.
Il avait une mini perruque.
Est-ce que ce serait pas une info que t'avais lâchée dans un épisode de Combini, ça?
C'est vrai, tout à fait.
Tu vois,
j'avais découvert ça comme ça. Et en fait, il y avait Ian Fleming qui avait dit que quand ça devait être le premier James Bond, il voulait pas que ça soit Sean Connery parce qu'il trouvait qu'il avait pas assez de cheveux. Donc il lui a rajouté des cheveux. Et après, tous les James Bond, ils ont toujours eu au moins un rajout de cheveux pour qu'ils aient des vrais cheveux, tu vois.
C'est pas trop grillé, je trouve, ça.
À part Daniel Craig. Mais Pierce Brosnan, Roger Moore, même Timothy Dalton, je crois. Ils ont tous eu un mini toupet. Mais des fois, c'était genre juste une bande avec un peu de cheveux, tu vois. C'est un peu un ringos, mais voilà.
Alors, le dernier acteur à trouver, il y a un petit piège et c'est assez pas mal à chercher.
Ah.
Vas-y, Mehdi.
Retour vers le futur.
C'est un acteur qui joue dans Retour vers le futur, qui est un acteur chauve connu aujourd'hui.
Un acteur chauve connu?
De Retour vers le futur. Et dans le 1 et dans le 2. Il joue dans les deux premiers.
Christopher Lloyd?
Non.
Non.
Et c'est devenu un acteur chauve, hyper connu.
Ah ouais?
Enfin, oui, mais enfin, il est chauve parce qu'il est un peu vieux, il a, tu sais, les cheveux un peu ébouriffés et tout. Il fait partie de la bande de méchants Biff Tannen.
Billy Zane.
Joli, Billy Zane. Billy Zane qui est le méchant dans Titanic.
Il avait des cheveux encore.
Je vais dire un truc de fou, j'ai jamais vu Titanic.
Mais non.
Ah bon, bah, du kiff pourtant, toi.
Alors pourquoi t'as jamais vu Titanic? Acte manqué ou?
Non, ça m'intéresse pas.
Ouais, tu t'en fous.
En fait, l'histoire, on la connaît. Du coup, ça m'intéresse pas.
Ouais, mais
pas.
Tu connais pas l'histoire d'amour.
Il y a du love.
Tu connais pas le love.
Ça ne m'intéresse vraiment pas.
C'est un love un peu au feu de l'amour dans l'ambiance.
Non, les feux de l'amour, c'est spécial.
Donc, la bombe que tu lances aujourd'hui, c'est que les feux de l'amour est mieux que Titanic. C'est
oui.
La bombe.
Oui, je l'assume. Je l'assume. Vraiment, j'ai jamais vu Titanic.
Ah, mais c'est long, c'est chiant.
Et il me semble que Victor Newman joue dedans.
Mais oui, c'est vrai, exact. T'as toutes les raisons. Mais c'est vrai.
Et j'y suis pas allé.
Mais t'as toutes les raisons de regarder Titanic, du coup. Mais c'est
non,
vrai,
mais ça. Non, ça, jusqu'à maintenant, ça m'intéresse pas. Je pense que je le verrai dans 10 ans, 15 ans.
Est-ce que tu as une dernière astuce, Calvici, midi?
Non, mais la meilleure astuce, ça reste évidemment de tout raser, d'assumer.
Est-ce que c'est pas le bon mot de la fin, hein, finalement?
Oui, c'est
un peu le meilleur conseil qu'on peut donner aux autres.
C'est ce qu'on a fait en tous les cas avec Driver et on s'en porte, pas plus mal.
Voilà, exactement. Moi, j'aime cette vie.
Eh ben, écoute. Mais j'ai souvent remarqué, parfois, j'ai déjà parlé avec des meufs, je leur dis, ouais, mais toi, ça te gêne pas des mecs qu'on est calvici? Et les meufs, elles répondent toujours un peu la même chose. Elles disent, mais non, mais moi, je m'en fous, c'est toujours aussi bien, etc. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas.
Totalement faux.
Bon. Ah ouais, totalement faux.
Moi, depuis que je me suis rasé le crâne.
C'est vrai que t'as encore plus de succès qu'avant, je trouve.
Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai compensé autrement, par mon intellect, par. il a fallu aller chercher plus loin pour juste dire, regarde, j'ai des cheveux, je peux me dire, vas-y. Non. Il a fallu aller plus loin et effectivement, ça marche.
Bravo. Faut savoir que Mehdi faisait un truc. Alors, je peux le balancer quand même, hein, parce que.
Alors, c'était pas qu'est-ce que c'est?
J'allais en panique. Non, parce que niveau intellect, on va dire ce que tu faisais à l'époque, qui était très drôle.
Allez, vas-y, balance.
C'est que Mehdi. En 2001-2002, quand il allait marcher dans la rue, il faisait exprès d'avoir un livre dans la main, mais il ne le lisait pas. Juste pour le style.
Vu comment il rit, ça a l'air vrai. Franchement, c'est vrai, ça se voit.
Et je me souviens, parfois, je donnais rendez-vous au métro, il avait un livre, mais c'était juste pour le style, en fait, parce qu'il voulait voir un livre dans les mains. T'en souviens de ça?
Oui, parce que je me disais, peut-être que dans le métro, une fille me dirait, hey, mais attends, mais quel beau gosse, ce mec est en train de lire, mais attends.
Tu lisais quoi? C'était quoi?
C'était Lou Ferré.
Je me souviens qu'il y avait un truc des poèmes de Baudelaire. Tu mettais vraiment le truc à fond, quoi.
Ah ouais, putain, le poète. Ah, le con.
Et en plus, à l'époque, et pour le coup, à l'époque, il n'y avait pas Calvici. T'avais une sublime chevelure longue.
Exactement. Ouais.
Des grands cheveux longs bruns. Ouais. Tu mettais des vestes en velours marron, c'était vraiment le mec du Panthéon Assas. Mais qui ne lisait pas le livre.
Et qui rentrait à Bobigny tous les soirs.
C'est ça qui était beau avec Mehdi, c'est que nous on avait une vie parisienne, mais le soir on rentrait tout le temps à Bobigny. Et puis, c'était un peu comme Cendrillon finalement à chaque fois.
Ouais. Sauf que c'était pas à minuit, c'était dès 18h je crois.
Oui, c'est vrai que c'était tôt. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur le film Superbad. Et ça tombe bien parce que je sais que Driver est un amateur d'anecdotes.
Ouais.
Tu t'en régales d'anecdotes.
Totalement, j'adore.
Alors déjà, il faut savoir que les deux personnages principaux, Jonah Hill et Michael Cera, ont donc comme prénom dans le film Seth et Evan, comme Seth Rogen et Evan Goldberg, qui sont les scénaristes de ce film. Car il faut savoir qu'ils ont écrit Superbad quand ils avaient 13 ans seulement, alors qu'ils étaient au collège. Wow. C'est assez ouf. C'est vrai qu'à 13 ans, les gars, on faisait quoi, nous, à 13 ans? Parce qu'on faisait... Non, on faisait pas des trucs comme ça, nous, à 13 ans.
Ben, je sortais avec la petite sœur d'un gangster.
Ouais, c'est vrai. Et nous, on faisait chez le prof d'espagnol, et puis l'autre.
Moi, je mettais des rondins.
Il mettait des rondins dans les trucs.
Il mettait des rondins.
Voilà ce qu'on faisait à 13 ans.
Tout le monde.
C'est pas la joie. À votre avis, combien de fois le mot fuck est prononcé dans le film?
Oh la bourre, oh, voilà. Dans le début.
Aïe.
Mehdi a compté avec sa fille hier soir.
Il y en a trois au début, après c'est fini.
Alors, à votre avis, dites un chiffre, qui s'en rapproche le plus?
Allez, moi je dirais deux. Attends, je sais que le plus gros, c'est Wall Street, je crois, il y en a 634.
Ah ouais, putain.
Un truc comme ça. Donc là, moi je dirais 250.
Ok, Mehdi.
150.
Driver.
Oh, il y a un piège, moi je vais dire 30.
Eh ben, c'est Mehdi qui s'en rapproche le plus avec 186.
Ah, quand même,
voilà. dont 84 fois par Jonah Hill.
Oui, bah oui.
Ouais, voilà, ouais.
Jonah Hill qui le dit...
Ah, il fuck à fond, lui.
Allez.
Ah, mais lui, il y va à fond.
C'est un fucker.
En plus de Sean Penn, Eminem était également un grand fan du film, au point de l'avoir déjà cité deux fois dans deux sons différents, Brainless et Ballin' Uncontrollably. J'ai tellement mal dit. Ballin' Uncontrollably. C'est dur à dire, Uncontrollably, non?
Ouais.
On arrive à le dire ici un peu ou non? C'est galère.
Non, je suis du loin.
Voilà, c'est galère. Bill Hader, hyper drôle dans le film, qui joue le flic en compagnie de Seth Rogen, a confié avoir par la suite reçu des dizaines de propositions pour jouer à nouveau un flic dans le film. C'est-à-dire que tous ses rôles après, c'était ça. On lui demandait de jouer un flic. Tellement il joue hyper bien le flic dans Superbad. Ouais,
un certain type de flic, quand même.
Un certain type de flic. D'ailleurs, lorsque les deux flics demandent à McLovin où se trouve la soirée, McLovin répond 13 and Granville. Et cet endroit se trouve en fait à Vancouver, exactement là où ont grandi Seth Rogen et Evan Goldberg.
Ah, c'est stylé, ça.
C'est le nom de leur rue. Voilà.
Bien ça.
C'est cool.
Alors, dans le film, il y a beaucoup d'alcool. Et bien évidemment, ce n'était pas de l'alcool qu'on trouvait en fait dans les verres, puisque la vodka était remplacée par de l'eau. Il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient encore limite ados. Le whisky par du jus de pomme et le panaché remplaçait la bière. Voilà ce qu'on voit à l'écran. Mmh. Autre info, ce film est également important pour Emma Stone, puisqu'il s'agit de son tout premier. Et ce qui est fou, c'est qu'elle était jusqu'au dernier moment en concurrence avec Jennifer Lawrence, qui, si elle avait eu le rôle, aurait également joué dans son premier film. C'est-à-dire que les mecs, pour le rôle féminin, le premier choix, ils hésitaient entre Jennifer Lawrence et Emma Stone, qui n'étaient pas connus. C'est dingue, quand même.
Ouais, c'est fou.
C'est fou.
Comme quoi, ils avaient eu le nez creux.
Et le casteur est très bon, pour le coup. On se souvient tous de la scène des dessins de bites, Parce qu'on en a pas parlé.
Ah, ouais, j'ai le livre en plus.
Ah, il y a un livre de ça?
Ouais, il y a un livre.
Mais non.
Si, je te jure. C'est Super Bad de Drawings. Parce que je crois qu'en fait, c'est vraiment des dessins de Judas Pato, je crois. Okay. Ou Ted Rogen, je sais plus. Et c'est tous les dessins que tu vois où il dessine des beats, là, où il explique le truc.
Donc, tu as le dessin de beats.
Bah, j'ai un livre avec tous les dessins de beats dedans.
Ouais. Ok. Eh bien, figurez-vous que chaque dessin a dû être validé par le service juridique et légal de la société de production qui faisait des retours en disant trop grosse, trop vulgaire ou alors trop veineuse. Là-bas, ils sont.
Ils sont
hyper pointilleux là-dessus. D'ailleurs, à un moment, on voit une petite fille tenir un des dessins entre ses mains. Eh bien, les petites mains que l'on voit à l'écran ne sont pas les mains d'un enfant, mais d'une personne de petite taille, car légalement, là aussi, ouais, un enfant ne pouvait pas être filmé en tenant devant ses yeux un pareil dessin. Mmh. Donc voilà, pour l'info, quand vous verrez ces petites mimines à l'époque. Et enfin, 6 ans plus tard, on peut à nouveau apercevoir ensemble Evan, Seth et McLovin dans le très bon film This is the End, film réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg. La boucle est bouclée, du coup. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Je vais te poser plusieurs questions, Driver.
Ok.
Le dernier film que tu as vu au cinéma.
Ouh là là.
Ah, ça remonte.
Bah, c'était avant le Covid, franchement. Je pense que c'était le Star Wars, le dernier Star Wars que j'ai détesté en plus.
Alors, pourquoi tu l'as détesté?
Oh, c'était mou.
Ouais.
Je suis parti avant la fin.
T'es plus ancienne génération.
Je me suis levé... Non, bah oui, je suis plus ancienne génération, mais il y en a certains de la deuxième vague que j'ai quand même apprécié. Et le dernier, là, j'ai vraiment pas aimé. C'est le seul où je me suis levé, je suis parti.
Ok, ça t'arrive souvent de partir avant la fin d'un film ou
c'est plutôt... rare.
Ah, c'est rare en plus.
C'est rare.
Ok.
J'ai dû le faire 2-3 fois.
Mais les feux de l'amour, tu restes.
Hein. À vie.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme.
Le dernier film que j'ai vu via une plateforme, Un prince à New York, le 2.
Ah, oui, qui je crois il est sur Netflix et Amazon en ce moment.
Amazon, j'ai vu sur Amazon et j'ai trouvé ça.
Ah, le 2.
Ouais, le 2.
Ah, ok, d'accord. Et
j'ai trouvé ça très très nul.
Ah ouais, c'est nul.
Ouais, c'est horrible.
Ah merde, mais tu vois, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de trouver ça nul aussi, tu vois.
Eh ben, je me suis lancé moi.
Parce que le 1, je l'adore, c'est un film culte.
Le 1, c'est un classique, c'est magnifique.
À ce qui paraît, il est pas mal Wesley Snipes dans le 2, non? Même pas.
Ouais. Si, c'est cool. Après, ça dépend ce que tu en attends du film, en fait.
Mais moi, je voulais rire. J'ai jamais ri.
Ah ouais, même pas une vanne.
J'ai jamais ri.
Bon, vraiment. Leslie Jones, ça m'a fait rire, quand même.
Oh, je trouvais ça horrible.
Ok, vraiment. Très bien.
Mais oui.
La dernière série que tu as regardée, hors feu de l'amour, bien sûr.
Snowfall.
Ah, c'est chaud.
Ouais, c'est incroyable.
Ça raconte quoi?
Ah ouais.
C'est l'arrivée du crack à Los Angeles.
Ok.
Ça peut paraître, mais magnifique. Je crois que c'était la saison 3 ou 4, je sais plus. Mm. Bref, je suis à jour, c'est magnifique, c'est vraiment...
C'est sur quoi?
C'est John Singleton à la base qui...
Ah, pas mal.
Et le pauvre, il est mort depuis, mais il avait commencé de son vivant et il continue la série, et la série, c'est sur Canal+.
Ok, d'accord, cool.
Et magnifique.
Beaucoup de grands rappeurs américains ont commencé comme... enfin, vendaient du crack, de la drogue.
Ouais.
C'est une récurrence que...
Bah, c'est leur vie là-bas. Hein, le sport, le rap, crack.
D'ailleurs, j'ai vu sur YouTube, il y a des vidéos de toi à Los Angeles.
Ouais.
Je trouvais ça cool à regarder parce que c'était quoi, début 2000 un peu, enfin 2000.
Allez, je suis nul dans les dates moi, mais ouais, en tout cas c'est.
Mais c'est cool parce que tu ressens un peu l'ambiance du début des années 2000 dans la ville de Los Angeles quand on regarde tes vidéos.
Ouais.
Ça c'est cool à regarder.
Déjà j'avais des cheveux.
On aurait pu mettre
dans la liste.
Alors, est-ce que tu te souviens de ta première fois à Los Angeles parce qu'il y avait un côté un peu mythique. En plus toi, t'arrivais là-bas, c'était aussi pour enregistrer des sons.
Même pas, j'y allais en vacances, mais. J'aime tellement le rap de Los Angeles que j'avais l'impression de connaître la ville avant d'y être allé. Du coup, quand j'y vais, j'arrive à l'aéroport, j'ai l'impression d'être chez moi.
Ok.
Et j'ai fait une grande gaminerie que j'assume totalement. J'ai deux amis de Los Angeles qui sont venus me récupérer à l'aéroport. Et je rentre dans la voiture, je mets ma valise dans le coffre et tout. Et je leur demande, je dis, s'il vous plaît, vous pouvez me rendre un service, s'il vous plaît. Que c'était un mec et une meuf, je connaissais la meuf mais pas le mec, ça allait devenir mon ami après, et c'était la voiture du mec et il me dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, et je dis j'ai un CD là, si tu peux mettre la numéro 4, et c'était Machiavelli, là, le dernier album de Tupac, l'année de où il se fait assassiner, et il y avait la chanson To Live and Die in LA, et je voulais la vivre en étant à LA, à Los Angeles, et quand il l'a mis, en plus on avait un cabriolet, j'avais les bras en l'air. Un peu comme DiCaprio dans Titanic. J'étais à Los Angeles. J'étais heureux. C'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et là, les mecs qui vivent, eux, à Los Angeles, ils me regardaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a, lui?
Franchement, t'as trop de connexion avec Titanic, en vrai. Faut que tu le regardes.
J'ai pas envie.
Est-ce que, alors, je sais que tu l'as déjà raconté ailleurs, mais est-ce que tu peux nous raconter la connexion? Parce qu'à l'époque, les gens se rendent pas compte, mais à l'époque, c'était ouf, la connexion avec Boyz II Men.
Ouais, non, ça, c'était, en fait, Boyz II Men, ils étaient chez Motown, label mythique, et Motown était distribué en France par Polydor. Et moi, j'étais signé chez Polydor, donc un jour, la maison de disques, j'avais même pas sorti mon premier album encore, me dit, voilà, il y a un morceau de Boyz II Men qui s'appelle Can't Let Her Go, qui tourne un peu en radio ici, mais on n'arrive pas à aller plus loin. Et avec la loi des quotas, il fallait plus de musique française et tout, ils se sont dit, ce serait bien qu'on mette un français dessus, donc est-ce que tu serais chaud pour être sur le remix? Je dis, Boyz II Men, avec plaisir. La musique, c'était Puff Daddy. C'était, je sais même pas pourquoi on m'a posé la question. Il fallait me mettre directement dessus.
Cache.
Et voilà. Et du coup, j'ai accepté. J'ai enregistré de mon côté. La chanson part en radio. C'est joué partout. C'est-à-dire que moi, la première fois que je me retrouve sur une radio nationale, je suis avec Boyz II Men, le plus gros groupe de R&B américain du moment. Et du coup, la chanson a tellement pris. Ils ont dit, bon, faut quand même faire la rencontre et tout. Et on m'a envoyé aux États-Unis. C'était ma première fois aux États-Unis. Pour les rencontrer, faire des interviews pour la presse française. Et ma première fois aux États-Unis, c'est pour aller voir Boyz II Men.
Ah, mais c'est ça, en fait, quand tout à l'heure je disais pour enregistrer son, en fait, je pensais que ta première fois aux States, c'était pour enregistrer avec eux, en fait.
Non, non, je suis allé les rejoindre
okay.
sur une date de leur tournée. C'est une grosse tournée. Et on devait faire des interviews ensemble et je devais monter sur scène avec eux. C'était à Jackson, Mississippi. Et ce qui est fou, c'est que quand j'arrive à l'aéroport Jackson, Mississippi, il y a un douanier. Un Mexicain avec un regard très méchant qui me dit « Et vous êtes là, pourquoi ?» Et moi, c'est ma première fois aux États-Unis, donc j'ai pas les bons réflexes. Je dis « Je dois voir Boyz II Men. » Il me dit « Bon, sérieusement, vous êtes là, pourquoi ?»« Mais je dois voir Boyz II Men. » Et là, il commence à s'énerver. « Oh, j'ai pas le temps. T'es là, pourquoi ?» Et là, il y a une meuf de la maison de disques qui me dit « Non, t'es en vacances, en vacances. » Je dis « Mais c'est pas vrai, on n'est pas en vacances. »« T'es en vacances, en vacances. » Il me dit « Voilà, pourquoi t'essaies de me mentir ?» Moi, dans ma tête, en français, je dis, mais je vais vraiment voir Boyz II Men. C'était incroyable, en fait.
Ouais.
C'était tellement énorme à ce moment-là.
Mais oui.
Un Français, il peut pas venir aux États-Unis pour les voir. Pourtant, c'est ce qui s'est passé.
Je pense qu'ils deviennent les Poetic Lovers, parce qu'il y avait les Boyz II Men français, c'était les Poetic Lovers.
Ah, je les vois souvent.
Ouais.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a un mois, même pas. Et ils préparent leur retour.
Ah ouais. Mais ça, c'était un gros truc à l'époque, les Poetic Lovers.
Ouais, ouais, c'était des millions de disques vendus en France.
C'était fou.
Ouais.
C'était la mode à fond.
Ouais.
La dernière chanson que tu as écoutée?
C'était en arrivant ici, c'était Young Money, la clique de Lil Wayne. Le morceau, c'est Bedrock. I'm gutter, gutter. I put a under. I see me with her.
No Stevie Wonder. She don't even wonder. Ah ouais,
voilà,
les classiques.
J'étais en aléatoire, j'ai fait une spéciale Cash Money, j'ai une playlist spéciale Cash Money, c'est tombé sur ça.
Cool. Le dernier livre que tu as lu?
Je suis en train de, je l'ai pas fini encore, c'est The Gucci Mane Guide of je sais plus quoi, Greatness. Voilà, The Gucci Mane Guide of Greatness, un livre en anglais. C'est en fait Gucci Mane, célèbre rappeur américain, qui donne un peu ses recettes de réussite et c'est plus un livre de motivation.
Ok.
Il est bien ou pas?
Il est cool, il est cool.
Allez.
Tu le prends avec toi dans le métro ou pas?
On prend les meufs.
Baudelaire.
Tu
c'est pas Baudelaire.
Je sais que tu donnes des leçons de séduction dans tes sons, mais écoute Mehdi quand même là-dessus, franchement.
Ah, oui. Non, mais franchement, Gucci Mane, s'il y a une meuf qui m'approche par rapport à Gucci Mane, je me méfie de la meuf. Moi, je dis non. Non, Baudelaire, c'est mieux.
Balade-toi plutôt avec la biographie de Newman, là. Là, tu seras bien, là.
Ouais. Je vais tomber sur
c'est au moins, Mehdi, qu'il y avait aucune chance que ça marche, ton truc, quand même, j'y repense, là. Mais il y avait vraiment zéro chance pour que ça fonctionne, ton truc. Puis une meuf arrive, il a fait, attends, tu lis Baudelaire, mais waouh! Incroyable!
Personne ne lit Baudelaire, c'est au programme, putain!
J'étais un grand romantique et
c'est vrai.
Je le suis toujours.
Mais en plus, sortir avec une prof de français.
Ah oui,
c'est vrai.
Oh là là.
Joli, pourquoi pas. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu?
Je suis pas du tout BD ni manga.
Ok.
Donc, dernier manga que j'ai lu, non, j'en ai jamais lu, je crois.
Et BD, quand t'étais petit, tu lisais un peu des BD ou pas?
C'est pas mon truc, hein.
Ouais, non.
Je préfère regarder direct le dessin animé de Lucky Luke sur la 3, je me rappelle.
C'est vrai que ça passait sur la 3.
Plutôt que de le lire, non.
le dernier objet culturel que tu as acheté.
Mm-hmm. Les CD, ça marche?
Ah ouais, ça marche.
Ouais, bah, CD. Hein.
Donc, alors, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que moi, ça fait hyper longtemps, j'ai beaucoup de CD chez moi, mais ça fait longtemps que j'achète plus de CD.
Moi, je suis un collectionneur.
T'achètes, ok, d'accord, t'achètes encore des CD.
Toujours, ouais.
Et c'était quoi comme CD?
Un E-40, un album d'E-40 qui me manquait, un rappeur de Oakland.
Est-ce que d'ailleurs, tu collectionnes des trucs chez toi comme ça? T'as un peu une âme de collectionneur?
Ouais, CD. Vraiment que les CD. DVD un moment, mais moins.
Ok.
Mais c'est vraiment CD, mon truc. Et...
T'en as combien à peu près chez toi?
Je sais pas.
Ouais.
C'est trop, ça se compte.
Genre beaucoup, ouais.
Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et vinyle, non, un petit peu, ou?
J'ai arrêté. Ceux que j'avais, je les ai tous donnés à mon frère qui, lui, collectionne les vinyles et en achète toujours aujourd'hui.
Aurélien a une très belle collection de vinyles.
Je sais.
Ouais. Et d'ailleurs, on attend que tu reprennes l'humeur, le Hazard Disc.
Ah ouais.
Bah ouais.
Ça va arriver, les gars. On va pas se mentir.
On attend. Et enfin, le dernier artiste que tu as scroll sur Insta ou Twitter.
Alors, je suis désolé, je suis un peu vieux. Qu'est-ce que veut dire scroll?
Enfin, c'est scroll genre, que tu as regardé, parce que tu as bien regardé, en gros.
Oh, mais moi, je regarde énormément de gens.
Ouais. Il y a un compte que tu suis un peu plus particulièrement sur Insta ou Twitter, ou pas du tout?
J'en suis plein et je regarde mon fil d'actualité. Après. On se parle franchement.
Ouais.
Ah, c'est des filles sexy, hein.
Ah oui.
Non, j'ai des comptes de vidéo vixen américaines. Ces filles sublimes qu'on voit dans les clips de rap américain. Je les suis toutes et il y en a une qui est vraiment, 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 vraiment sublime.
Qui s'appelle?
Gloria Vélez.
Gloria Vélez.
Et comme je suis un grand gamin, elle figure sur mon deuxième album.
Oh, joli.
Ah ouais. Je suis allé aux États-Unis que pour ça. J'ai fait chier ma maison de disques que pour ça.
Tu vois, Mehdi, là, tu vois, il te regarde parce qu'il a beaucoup de leçons à apprendre. Là. Lui qui a envie d'être dans la séduction, il est dans... Hein, Mehdi?
J'ai toujours à apprendre des autres choses.
Des autres choses. C'est une confrérie.
C'est une confrérie, effectivement. Bientôt Aurélien.
pas si vite.
Oui, parce que nous en reste encore un peu, Mehdi, avec Aurélien.
Ouais. Battez-vous. Gagnez du temps.
C'est parce que j'ai les cheveux fins, c'est pour ça. Bon.
Ce podcast est désormais terminé. Driver, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Donc apparemment, t'écris un livre, c'est ça?
Ouais, j'ai un livre qui devrait arriver en 2022. Il est quasiment fini.
Ok, alors comment c'est arrivé cette idée d'écrire un livre?
Bah, c'est... Quand j'ai commencé à bosser en radio avec notre ami Aurélien ici présent, je donnais beaucoup d'anecdotes dans les émissions dans lesquelles je bossais et sur Internet, les gens m'envoyaient des messages. Ah, t'as toujours plein d'anecdotes, c'est super et tout. Faudrait que t'écrives un livre. Moi, je me dis, oh, qui va acheter un livre avec mes anecdotes? J'y croyais pas. Sauf que les mois passaient, il y a de plus en plus de monde qui me le demandait. Donc un jour, j'ai dit, bon, ok, je vais l'écrire. Et j'ai vu les réactions. Je me suis dit, donc, il y a vraiment des gens qui seraient prêts à acheter ça. Bon, ok, on a mis tout en place pour que ça se fasse et c'est en cours. Mais techniquement, il est presque fini.
Ouais, parce que finalement, t'es blindé d'anecdotes. Pas plus tard que ce matin, je regardais un extrait de l'ABCDR du son. T'étais invité.
Ouais.
Où t'expliquais que t'avais vu un rappeur en concert, tu rentres à Paris, t'apprends qu'il est mort le lendemain.
Pimpsy de UGK, c'est complètement fou.
T'as plein d'histoires comme ça.
C'est des trucs qui me tombent dessus, en fait. Il y avait aucune raison que ça se passe comme ça. Et ça se passe tristement comme ça. Mais du coup, j'ai toujours des choses à raconter.
Est-ce que t'as des petites anecdotes liées à la création du premier album Grand Chelem qui pourraient nous teaser comme ça dans l'envie d'acheter le livre plus tard? Parce que c'est quand même une époque où quand Grand Chelem sort, à ce moment-là, t'es une méga star de fou, quoi. Genre l'album cartonne.
Ça se passe super bien. J'ai 22 ans surtout.
Ouais, t'es hyper jeune.
Et il y a pas Internet, il y a pas les réseaux sociaux, donc je me prends pas le truc. Super fort non plus.
Comment tu vis la notoriété à ce moment-là?
C'est très bizarre. Moi, je suis un mec, j'ai pas le permis. Je l'ai jamais eu.
On a toujours pas le permis avec Mehdi aussi. C'est un truc qui nous rassemble encore dans laquelle vit c'est.
Voilà. Mais du coup, on peut me voir à la télé et on peut me voir dans le RER, dans le métro en même temps. Et ça fait que les gens me regardaient bizarrement. Mais je t'ai vu à la télé ce matin. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi? T'es riche et tout ça. Je dis, c'est pas une histoire d'être riche ou pas. J'ai pas le permis. Et ça fait que ça devenait compliqué d'être dans mon RER avec mes écouteurs et écouter juste ma musique. J'étais tout le temps en train de parler à quelqu'un qui me reconnaissait. Et au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à rouler en taxi parce qu'on avait volé des codes de taxi G7 à la maison de disques.
Pas mal.
On l'a presque tous fait, les rappeurs. Aujourd'hui, on s'en parle, on est mort de rire. Et du coup, je me baladais dans Paris en taxi. Donc ouais, mais ça m'évitait de d'avoir tout le temps à discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Et
ouais, avait, t'avais du mal un peu avec ça, avec des... les gens qui...
En fait, j'ai toujours eu du mal avec le succès.
Ok.
Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, je montais sur scène, j'adore être sur scène, j'ai jamais le trac avant. Je monte sur scène, et quand je finis, c'est là que je me sens mal. Parce que souvent, on vient me féliciter et tout, et j'ai du mal avec ça, en fait. Je sais pas quoi faire quand on me dit que c'était bien.
Ouais.
Et je me suis rendu compte, mais tu n'es pas fait pour ça, en fait. Pourquoi tu le fais? C'est un besoin, mais une fois que c'est fini, c'est très bizarre. Je sais pas quoi faire. Quand on me dit, ah, c'était bien. Merci. Ouais, mais vraiment, c'était bien. Je commence à me sentir mal. Et c'est bizarre depuis toujours.
Mais écoute, c'est le genre d'anecdote qu'on va retrouver. Enfin, j'imagine que tu vas retracer ta vie de A à Z.
Ouais, pas de A à Z, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas dire. Mais...
c'est le grand truc de driver, ça. Voilà. Il y a des trucs qu'on peut pas dire.
Voilà, mais une grosse partie, et surtout, je pense, ma psychologie, ma façon de penser, et bien sûr, un tas d'anecdotes, parce que j'ai vécu et rencontré plein de gens extraordinaires, des histoires extraordinaires, des fois tristes, des fois très joyeuses. Et on va pouvoir se reconnaître dedans, je pense.
Très bien. Alors donc ouais. Ça c'est le livre. Ouais. On parlait aussi du podcast. Comment ouais. Tu pourrais raconter un peu ce podcast pour les gens qui le connaissent pas et qui voudraient l'écouter?
Bah, featuring à la base ce podcast. Moi, quand on est venu me chercher, on m'a dit t'es la seule personne qui peut interviewer d'autres rappeurs et que ces rappeurs te parlent vraiment sans filtre et racontent leur parcours. J'ai dit ok, allons-y. Et quand on l'a fait, on a enchaîné les épisodes. J'ai commencé à recevoir plein de messages où les gens me disaient Driver, ce que tu fais, c'est énorme. T'es en train d'écrire le hip-hop en fait en podcast, l'histoire du rap français en podcast.
Cool.
Et j'avais pas cette vision-là parce que quand on est venu me chercher, c'est pas ce qu'on m'a demandé. Je pense que si on m'avait demandé ça, j'aurais eu peur. Mais en fait, les épisodes s'enchaînant, il y a des liens et tout, et on se rend compte que c'est ça en fait qui est en train de se faire. Et c'est super cool. Je suis content que ça plaise et je suis content d'y participer, tout simplement. Donc, en gros, si vous voulez connaître l'histoire du rap français, et on n'a pas fini, on la raconte à chaque fois, ça sort toutes les deux semaines, ben, featuring, c'est parfait.
Et il y a aussi YouTube, parce que c'est justement Mehdi qui m'a fait découvrir ce que tu fais sur YouTube. Mehdi qui regarde à fond ce que tu fais sur YouTube.
OK.
Et il y a aussi, bah, ouais. T'es aussi sur YouTube.
Rouler avec Driver, qui est... là, c'est beaucoup plus axé rap américain en ce moment, même si je l'ai fait sur le rap français à un moment. Mais là, en ce moment, c'est sur le rap américain où je reviens sur des carrières ou des mouvements et beaucoup d'anecdotes par rapport à ces artistes-là. À côté de ça, j'ai un autre truc qui s'appelle La Récré, qui est une émission de débat où on reçoit des artistes français et qui débattent sur des sujets qui les touchent.
Alors, c'était pas écrit dans l'équipe, mais selon Mehdi, figure-toi que c'est à cause de toi qu'on a perdu contre City, PSG. Parce que Mehdi est très superstitieux quand on regarde des matchs du PSG. Et au moment où on se prend le but de Bruyne, on parlait de toi, parce qu'on préparait le podcast. Et en gros, Mehdi me fait, mais attends, mais pourquoi il a choisi Driver comme nom? Puis on parlait de ça. Et puis à ce moment-là, il y a le but de Bruyne. Il me fait, putain, fallait pas parler de Driver, c'est à cause de ça, là.
Non, mais là, je reconnais les vrais supporters de football. Un vrai supporter, c'est toujours de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il y a un but, il faut qu'on trouve une excuse. Là, il a tout mis sur mon dos, je suis pour rien. Mais c'est un vrai supporter.
Mais dis, c'est ce que tu as dit, c'est à cause de lui qu'il y a le but de De Bruyne. Oui.
C'est dur.
C'est ce qu'il m'a dit.
Non, c'est un vrai supporter. La mauvaise foi, c'est important.
Je me souviens qu'une fois, il y avait eu un PSGOM, on était au lycée, et j'avais mis du poivre sur mon plat, et c'est le but, au moment où Laurie Cana, donc, avait signé à l'OM, ouais. Marque le but contre Paris. Il me fait, putain, pourquoi t'as mis du poivre maintenant? Là, voilà. C'est à cause du poivre, Laurie
vrai
Cana.
Supporter. Vrai supporter.
Ah ouais. C'est donc la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Superbad. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de Wheel of Cinema. Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.